Vous écoutez
RMC. RMC Intégral Sport.
Flora Moussi.
À 14h07 sur AMC, salut à tous, bienvenue dans l'Intégral Sport. À 15h, vous retrouverez Benoît Boutron pour la suite de l'après-midi. L'événement du jour, c'est à 17h45, finale de la Champions Cup. La Rochelle défie le Leinster en Irlande à Dublin. Christophe Cessieux vous fera vivre tout ça dès 17h avec Wilfried Templier et Denis Charvet sur place. On va les retrouver dans quelques instants pour les dernières infos et l'ambiance déjà autour du stade. Votre page olympique comme tous les samedis avec notre invité du jour, Khalil Chabouni, le breakdance français toujours en quête d'une qualification pour Paris 2024. Il nous parlera de cette concurrence féroce pour avoir son ticket. Et puis on vous donnera aussi les dernières infos olympiques. Sans oublier la 14e étape du Giro qu'on suivra tout au long de l'après-midi sur RMC. Et la Ligue 2 à 14h45. Bordeaux reçoit Laval et n'a plus le droit à l'erreur s'il veut valider sa montée en Ligue 1. La pression de Metz est là juste derrière à un petit point. Un samedi exceptionnel donc sur AMC avec la finale de la Champions Cup. Le tenant du titre, La Rochelle, va tenter un doublé historique face au Leinster. Et pour l'occasion, RMC vous fait vivre toute la journée l'ambiance autour du stade en Irlande, mais aussi à La Rochelle. Et dès 17h45, le match à suivre en intégralité avec Christophe Cessieux, Wilfried Templier et Denis Charvet. Wilfried qui est déjà avec nous malgré la grosse journée qu'il attend, mais on va pas le plaindre. Salut Wilfried!
Salut Flora, bonjour à toutes et à tous.
La Rochelle, tenant du titre, on l'a dit, qui retrouve le Leinster qu'elle avait battu la saison dernière pour remporter sa première Champions Cup. Simplement aujourd'hui, un petit détail, une petite donnée qui change quand même peut-être les choses. Le match se joue à Dublin dans le stade du Leinster, Wilfried.
Effectivement, dans la Viva Stadium, le stade aussi de l'équipe d'Irlande, où la France a perdu au mois de février dernier. L'année dernière, c'était Marseille, c'est le hasard de la loterie, des endroits, des finales. Marseille l'année dernière, Dublin cette année, Tottenham l'année prochaine, c'est comme ça. Mais c'est un stade qu'ils connaissent parfaitement, puisque leur première place de la poule A, alors que La Rochelle était premier de la poule B, leur a conféré le droit de jouer à domicile toute la phase finale. Huitième de finale, je vous donne juste les scores. Leinster-Ulster, 30-15. Quart finale, Leinster, contre Leicester. Les Anglais 55-24 pour les Irlandais et en demi les Toulousains malheureusement s'en souviennent, victoire sur le stade toulousain 41-22. Voilà, rien que ces scores vous montrent que c'est dur de venir ici, de venir jouer ici où il y aura, allez on va dire, un tout petit peu moins de 50 000 Irlandais et on annonce 3 000 Rochelais. Alors c'est vrai que le stade Vélodrome était entièrement acquis à la cause des Rochelais l'année dernière, ça a été un soutien incroyable notamment dans les dernières secondes où ils ont fait la différence avec l'essai d'Arthur Retière sur le gong, on s'en rappelle. Là ça va être, en plus Leinster a vraiment entretenu ça ces derniers jours, ces dernières semaines, en parlant de Blue Sea, de mer bleue, avec les supporters qui devront accueillir les bus quand ils vont arriver dans le stade. Ce sera évidemment pas facile, certainement moins facile que, enfin c'était pas facile l'année dernière, ce sera déjà encore moins cette année de venir les battre ici, où ils n'ont plus perdu contre une équipe française depuis 2015, depuis 8 ans. C'est Toulon qui était venu s'imposer en poule. Voilà, faut peut-être y voir un signe. Toulon n'avait pas gagné de titre depuis 8 ans. Hier ils ont gagné le Challenge Cup, et bien voilà, 8 ans peut-être, pourquoi pas La Rochelle venir faire l'exploit ici.
Espérons, ça fait peur. Toutes les infos que tu nous donnes là, c'est pas forcément à l'avantage des Rochelais. En tout cas, le match se joue à Dublin. Pas de quoi émouvoir pour autant Grégory Aldrit qui reste très pragmatique.
L'an dernier c'était à Marseille, là c'est sûr que c'est à Dublin face au Leinster, donc ça rajoute quelque chose. On a la chance, le club a organisé des avions et des transferts pour qu'il y ait nos familles en tribune, et on pensera à ces 30 000 supporters aussi qui seront sur le port à La Rochelle, et je pense que ça nous suffit. On n'est pas là pour subir des émotions, on est là pour faire un job, pour faire un business. On vient faire notre mission et on garde les émotions pour le dimanche à La Rochelle, mais clairement c'est un challenge qui est juste énorme et ça nous motive énormément en tout cas.
C'est un peu comme toi, Wilfried. Ils sont là pour faire leur business, les Rochelais. Le Leinster fait office de favori, mais pas question quand même d'avoir un complexe d'infériorité du côté Rochelais. Et notamment le coach, Ronan O'Gara, qui l'a dit, c'est du 50-50, Wilfried, aujourd'hui.
Oui, bah effectivement, il veut mettre ça dans les têtes. On l'entendra après dans les têtes de ses joueurs, surtout parce que qui c'est le tenant du titre, c'est La Rochelle, c'est pas le Leinster. Et c'est vrai que les Rochelais ont ce petit avantage psychologique sur les joueurs irlandais parce qu'ils les ont joués deux fois dans la Coupe d'Europe, ils les ont battus battu deux fois. En demi-finale à La Rochelle, c'est en période de Covid, donc c'était un stade à huis clos. Il y a tout simplement deux ans, pour se hisser en finale face à Toulouse. À l'époque, ils avaient gagné 32-23. Et l'année dernière, contre toute attente, puisque le Leinster était déjà favori, 24-21 en finale. La Rochelle, on le répète depuis des jours, a enchaîné 15 victoires de suite. Depuis la défaite en finale face à Toulouse en 2021, ils sont invaincus, les Rochelais, en Coupe d'Europe, en Champions Cup. 15 victoires de suite, ils ont éliminé des gros, les Saracens, etc. En phase finale. Ce club a grandi, cette équipe a vraiment pris de l'expérience et voilà, ils viennent matcher forcément avec le Leinster. Alors il y aura peut-être petit avantage pour le Leinster avec ce qu'on a dit sur l'environnement, mais La Rochelle a toutes les cartes en main pour s'imposer aujourd'hui aussi.
On va l'écouter justement, le coach irlandais de La Rochelle, sûr de ses forces et de celles de son équipe.
Tout le monde est pris par étoffer ou arrêter Leinster, mais arrêtez-nous. Ça mérite un vote et de poser cette question aussi. C'est pas juste arrêter Leinster, arrêter La Rochelle. Ça, c'est important pour nous aussi. Il y a cette perception qu'arrêter Leinster. Mais je pense que c'est presque 2 ans, notre dernière défaite. So, tous les clubs en Europe voulaient être là. On a la chance d'être là. On comprend le travail dur qu'on a fait pour être là. C'est possible de faire quelque chose. On sait l'adversaire, le stade, les conditions sont pas favorables, mais let's go.
Le bel accent de Ronan O'Gara. Let's go, voilà. Effectivement. On est avec Wilfried Templier pour parler de l'événement du jour à 17h45, la finale de la Champions Cup entre La Rochelle et le Leinster. Qu'est-ce qui a changé justement, tiens Wilfried, entre les deux équipes, enfin de chaque côté des équipes depuis cette dernière finale remportée par les Rochelais, notamment du côté de La Rochelle, parce que la composition n'est plus la même aujourd'hui.
Effectivement, parce que quand on regarde les compositions d'équipe d'une année sur l'autre, on remarque quand même que côté Rochelais, il y a 7 changements dans le 15 de départ, ce qui est quand même énorme. Il y a des joueurs qui n'étaient pas forcément titulaires, qui étaient déjà là, mais pas forcément titulaires. On pense à Reda Wardi, c'était Dani Prisot qui a été transféré ensuite à Toulon, à Romain Sazi qui était sur le banc. Je vais pas me faire arrêter, hein, n'aie pas peur.
Oui, j'entends des sirènes derrière toi. Qu'est-ce que tu as fait, Wilfried, encore?
T'inquiète pas. Alors, c'est un hélicoptère, c'est Denis Charvet qui arrive sur le stade. Romain Sazi qui était pas titulaire, les deux troisième lignes, on avait Liebenberg et Haddad. Là, on a Paul Boudéan et Levani Botia. Tawera Carbarlo, demi de mêlée, ex All Black, était blessé, donc il est là. Antoine Astoy et Yuji Setoni jouaient tout simplement pour Astoy à Pau et pour Setoni à l'UBB. Donc 7 changements sur les 15, c'est beaucoup quand même, hein, mais on peut penser, je vous ai dit ça, que La Rochelle s'est quand même renforcée d'une année sur l'autre. L'année dernière, c'est vrai que Yaya West qui avait fait un 100% sur la finale, mais voilà, la fiabilité au niveau des buts, normalement c'est en dessous Antoine Astoy. Yuji Setoni très fort en attaque et en défense, et puis Carbarlo, quant à All Black, c'est le maître à jouer à La Rochelle quand il revient, évidemment on peut pas être inférieur à l'année dernière.
L'équipe a changé, tu l'as dit à Wilfried, et selon Brice Dulin, elle est surtout plus expérimentée que la saison dernière.
Sûrement un peu plus d'expérience déjà, surtout à ce niveau-là. C'est nécessaire souvent pour mieux appréhender ces événements. Après, on a un groupe différent par rapport à la saison dernière qui a montré autant de force, si ce n'est plus. Donc voilà, il y a pour moi un vécu qui est important. Donc il faut s'attendre à quelque chose d'encore plus énorme en termes d'ambiance, d'hostilité. Mais on se prépare dur en début de saison pour ces moments-là. Et voilà, je pense que le groupe et le staff ont fait le nécessaire pour qu'on arrive fin prêt pour cette finale.
De l'expérience à La Rochelle, de l'expérience aussi du côté du Leinster, évidemment, un 7e finale de Champions Cup pour eux, Wilfried. Et là, à l'inverse, oui, de La Rochelle, on joue plus la continuité chez les Irlandais.
Ouais, juste avant de parler de cette compo, tu parles d'expérience, tu dis 7e finale, c'est aussi un club, une province qui est un monstre en Coupe d'Europe. Aujourd'hui, le Leinster va battre le record du nombre de matchs en Coupe d'Europe. Ils étaient à égalité avec le Munster, les autres Irlandais, avec 195 matchs. Ce sera le 196e aujourd'hui. Toulouse arrive 3e derrière avec 194 matchs. À titre de comparaison, La Rochelle va jouer son 36e match seulement de Coupe d'Europe. Donc le club est un peu plus neuf. Donc évidemment, il y a l'expérience de ces grands moments, de ces finales, tu l'as dit. 6 finales déjà jouées, 4 remportées pour le Leinster, c'est 3 pour La Rochelle, 3e consécutive. Mais oui, le Leinster, il y a plus de continuité dans la compo d'équipe avec 2 changements seulement. C'est Dan Sheehan par rapport à la finale l'an dernier. Dan Sheehan, le talonneur de l'Irlande, qui prend la place de Ronan Keller, qui est aussi international. Il n'y en a que des internationaux dans cette équipe. Et à l'ouverture, Ross Byrne, qui sera titulaire puisque Jonathan Sexton, la star de l'Irlande, est blessé fin de saison. Donc il se tourne vers la Coupe du Monde. Mais c'est Ross Byrne qui est 2e meilleur réalisateur de cette Coupe d'Europe avec 81 points. Il y aura un duel avec Antoine Antoine Astoy qui est à 85 points dans cette Coupe d'Europe. Mais voilà, on a gardé les à peu près quasiment la même équipe côté Leinster parce que ils veulent leur revanche. Évidemment, ben évidemment. Ils n'ont pas oublié cet essai sur la fin. Ils ont pensé qu'à ça pendant un an. On en discutait, il avait le pilier Andrew Porter avait été interrogé avant la demi-finale face à Toulouse, les journalistes lui disaient, et en finale si vous y allez, qui c'est que vous voulez prendre, Exeter ou La Rochelle? Tout de suite il a dit La Rochelle, parce qu'on veut notre revanche, on veut rejouer cette équipe et on veut avoir notre chance à nouveau. Le Leinster a un petit peu la pression aussi parce que depuis voilà, ils ont été champions d'Europe en 2012 et en 2018, mais entre 2012 et 2023 ils ont perdu deux finales contre les Saracens et La Rochelle, ils ont gagné qu'un titre, et ici on met beaucoup de moyens sur cette équipe et qui a eu toute cette phase finale comme je voulais expliquer, jouer à domicile, plus la finale à domicile. Donc, c'est presque, ils n'ont pas le droit à l'erreur, le Leinster, aujourd'hui. Voilà, dans la continuité du grand chelem de l'équipe d'Irlande, et sur la route de la Coupe du Monde, la pression est quand même sur le Leinster.
Jamais 203, Wilfried, jamais deux défaites sans une troisième aujourd'hui face à La Rochelle. On croise les doigts, en tout cas. Merci beaucoup.
Les supporters rochelais l'espèrent et veulent t'écouter.
Exactement, les supporters français, plus largement, on va dire, Wilfried. Merci beaucoup. On te retrouve tout au long de la journée, évidemment, sur RMC pour faire monter la pression avant ce match si important. 17h45 pour le coup d'envoi. Tu seras avec Denis Charvet au commentaire et c'est Christophe Cessieux qui animera tout ça sur RMC. À tout à l'heure, Wilfried.
À tout à l'heure.
On va prendre la température maintenant autour de l'Aviva Stadium où il ne doit pas faire très chaud. On va demander à Pierre Thévenet. Salut Pierre.
Salut Flora, salut à tous.
On a un peu plus de 3 heures du coup d'envoi maintenant. Est-ce qu'il y a déjà du monde autour du stade?
Alors autour du stade, pas encore beaucoup, mais ça commence à monter doucement. Les premiers Rochelais en fait sont arrivés hier, ils ont découvert la ville tranquillement. Temple Bar, je peux vous dire, était déjà bien animé hier. La plupart arrivent aujourd'hui pour le match. Ils seront 3000 à l'Aviva, les Rochelais, dans un stade de 50 000 places et qui sera à guichet fermé. Ils vont devoir chanter très très fort pour se faire entendre. Ce stade, il fait peur. Toulouse y a échoué en demi-finale de la Champions Cup et l'équipe de France avait cédé aussi face à l'Irlande lors du dernier tournoi destination. En tout cas, tous les Rochelais me l'ont dit, ils comptent bien se faire voir avec leur maillot jaune. Ils m'ont dit, le jaune ça se voit plus que le bleu et on va chanter plus fort, donc ils sont pas inquiets. En tout cas, en demi-finale, le public avait joué vraiment un rôle très très important face à Exeter, à Bordeaux, un stade qui était complètement jaune, c'était assez impressionnant. Et en finale l'année dernière face au Leinster aussi à Marseille, les Rochelais avaient poussé. Cette fois ils sont en sous-nombre, ils sont en terrain hostile, mais ils vont tenter de rivaliser.
Ouais, et en plus dis-nous tout, mais il y a les supporters toulonnais qui sont peut-être toujours sur place hein.
Alors oui, il y a pas mal de Toulonnais qui sont encore là, qui sont restés après leur victoire en Challenge Cup face à Glasgow hier. J'ai croisé hier des supporters toulonnais et rochelais qui s'échangeaient les drapeaux pour se supporter mutuellement. C'était sympa. Et puis il n'y a pas que des Toulonnais, puisqu'il y a plein de fans en fait de rugby en général qui prennent des places sur ces week-ends de finale, qui prennent des places très en avance en espérant que leur équipe soit présente sur le week-end. J'ai vu plein de maillots du top 14, des fans de Toulouse, des fans du Stade Français, de Clermont et aussi des Anglais. Et les Rochelais comptent beaucoup sur les supporters du Munster, qui est la province irlandaise rivale du Leinster. Et qui est l'ancien club de leur coach Ronan O'Gara, le coach rochelais. Il y aura plus de fans du Leinster, c'est sûr, mais les Rochelais, ils essaient en tout cas de se constituer un beau réseau de supporters.
Ah ouais, il y a des alliés de poids aujourd'hui pour les Rochelais, pour faire du bruit. Merci beaucoup Pierre, on imagine que la bière va couler à flot. Reste sobre, on a besoin de toi toute la soirée évidemment. Pierre, pour toutes les réactions en après-match. Je vous rappelle le dispositif sur RMC dès 17h pour l'avant-match avec Christophe Cessieux, 17h45 le coup d'envoi avec Wilfried Templier et Denis Charvet aux commentaires, et donc toutes les réactions et puis l'ambiance autour du stade avec Pierre Thévenet. On sera aussi du côté de La Rochelle avec Romain Asselin pour vous donner un petit peu l'ambiance. Ça va être le feu sur le port rochelais. Un petit mot du Tour d'Italie, la 14e étape du Giro. On va retrouver Pierre Amiche. Salut Pierre.
Bonjour Flora, bonjour à tous.
Alors dis-nous, où est-ce qu'on en est dans cette étape? Il y avait beaucoup d'échappés hein, devant tout à l'heure. Est-ce que c'est toujours le cas?
Bien sûr, un groupe de 29 coureurs qui défient la pente et les éléments. Ils viennent de passer la seule difficulté du jour. Ils ont perdu un petit peu de temps sur un peloton qui pointe désormais à 6 minutes 36. Mais 29 hommes en tête qui défient surtout les éléments. C'est devenu une habitude depuis maintenant 2 semaines et demie sur le Giro. Et bien il pleut, et puis il pleut tous les jours, il pleut des montagnes de flotte. Voilà, donc clairement les coureurs sont trempés mais courageux. Il reste désormais, que je ne te dise pas bêtise, 133 km 400 à parcourir pour boucler cette 14e étape entre Sierre et Cassano Magnano. Une étape qui devrait être soit réservée aux baroudeurs, le groupe de 29, soit aux sprinteurs avec les équipes des meilleurs, des fauves, des grands fauves qui sont désormais à la poursuite des 29 fuyards.
Merci beaucoup Pierre, on vous fera le point évidemment toute l'après-midi sur cette 14e étape du Giro. 14h21 dans l'intégral sport sur AMC, on revient tout de suite avec votre rendez-vous du samedi, la page olympique et notre invité du jour Khalil Chabouni, le breakdancer français, sera avec nous. À tout de suite sur AMC.
RMC Intégral Sport.
Flora Messi.
14h26 bientôt sur AMC. Merci d'être avec nous dans l'Intégral Sport. On vous rappelle le grand rendez-vous du jour, 17h45 pour la finale de la Champions Cup entre La Rochelle et le Leinster. On sera évidemment sur place pour vous donner les dernières infos, pour vous faire vivre tout ça avec Christophe Cessieux, Wilfried Templier et Denis Charvet aux commentaires. Et puis on aura aussi les réactions sur place avec Pierre Thévenet et du côté de La Rochelle, l'ambiance sur le port avec Romain Asselin. Mais comme tous les samedis, vous en avez l'habitude, on prend la route de Paris 2024.
En route pour Paris 2024
avec la Team RMC.
Un invité, des reportages et puis les dernières infos avant ces Jeux Olympiques tant attendus à Paris en 2024. Voilà ce qui vous attend dans les prochaines minutes. Et on démarre tout de suite avec notre invité du jour qui va vous mettre en jambe pour la journée. Le breakdancer français Khalil Chabouni est avec nous, membre de la Team Olympique de RMC. Salut Khalil.
Salut, salut.
Tu étais déjà avec nous il y a un mois et demi. En ce moment, tu es surtout concentré sur tes études de médecine avec les examens qui arrivent. Ça va, pas trop stressé ?
Non, non, ça va, pas du tout.
Rassure-moi, ça se passe bien au moins ?
Je bosse bien ces derniers temps-là. Donc, assez confiant. Et puis en plus, étant donné que j'ai des aménagements, on va dire que j'ai un programme qui est quand même assez allégé. Donc, ce qui fait que j'ai pas une masse de taf, on va dire. Donc ça va.
Donc, tu nous rassures, t'as quand même le temps de continuer de bosser à côté à ton breaking.
Exactement.
Et de t'entraîner.
C'est exactement ça. Je continue un peu à m'entraîner. On va dire que là, en ce moment, je suis plus sur du maintien plutôt que de vraiment forcer. Évidemment, je m'entraîne un petit peu moins en vue des examens, mais je maintiens mon niveau et ma forme, ma condition.
Est-ce que c'est difficile justement pour toi de faire la part des choses entre les deux, entre les études d'un côté et puis le breaking de l'autre ? Est-ce que tu as un ordre de priorité qui change selon tes échéances à venir ou comment ça se passe ?
C'est exactement ça. Selon les échéances, selon la période de l'année, je suis plus focus sur l'un ou sur l'autre. Mais étant donné que l'année universitaire, elle est quand même assez courte, là j'aurais terminé dès mardi prochain. Donc après... ça me laisse quand même les trois prochains mois, juin, juillet, août, vont être full focus sur le projet olympique, sur le break. Donc c'est suivant les moments, effectivement, je priorise. Quant à l'approche des examens, je priorise un peu plus les cours. Et puis à l'approche des compétitions, forcément, je m'entraîne un peu plus, donc je lève le pied sur le côté médecine. Mais c'est pas toujours, franchement. Effectivement, je vais pas mentir, c'est pas toujours simple à gérer les deux, parce que c'est en soi, le projet olympique, c'est déjà un projet de vie, mais faire médecine, c'est aussi un projet.
Oui.
Mais l'université de Paris Cité me permet d'avoir des aménagements et assez conciliante, donc ça le fait. Pour l'instant, ça le fait.
On croise les doigts pour toi, pour les examens aussi, pour Paris 2024, parce qu'on rappelle quand même ta qualification. Merci. Pour les Jeux, elle n'est pas acquise pour le moment. Est-ce que justement, tu peux nous expliquer comment ça se passe pour décrocher ce ticket si convoité pour Paris 2024 ?
Alors en fait, il y a des événements qu'on appelle les Breaking for Gold. Donc il y a les Breaking for Gold, il y a les World Series, il y a les Challenge et les Internationales. Et en fait, c'est des événements qui permettent de cumuler des points. Et ça permet de faire un ranking, tout simplement, de faire un classement. Et en fait, à l'issue de cette année, donc à l'issue de décembre 2023, ils vont prendre les quatre meilleurs résultats pour faire un ranking. Et ça donne, on va dire, le top 14 de ce ranking pourra aller dans ce qu'on appelle les OQS, qui sont en fait ce qui est qualificatif pour les Jeux, justement. Donc en fait là on est plutôt sur une pré-qualif, on va dire. Donc il y a 40 places à prendre pour les OQS. Et en fait il y a différentes entrées pour entrer dans ce système de qualification qu'on appelle les OQS. Il y a par exemple si on va au championnat du monde et qu'on est de la deuxième à la cinquième place, on peut directement entrer aux OQS. Ça, c'est une possible entrée directe. On peut aussi, voilà, si on fait les Jeux européens et qu'on arrive dans le dernier carré, on va directement aux OQS aussi. Donc il y a plusieurs entrées et il y a aussi voilà ce système de ranking qui permet d'entrer aux OQS aussi.
Ouais, c'est quand même assez complexe comme système de qualification pour les JO. Kali Chabouni, notre breakdancer français, nous explique tout ça. Justement, Kali, c'est quoi les quotas pour chaque pays? Du coup, la France aura combien de représentants à ces Jeux de Paris?
Alors, pour les Jeux de Paris, on aura un ou deux représentants. Sera
un chez les hommes, un chez les femmes, ou deux maximum, voilà. C'est ça?
Non, j'allais dire. Donc c'est deux par catégorie, on va dire. Donc ce sera deux hommes et deux femmes.
Ah oui.
Au maximum.
Donc ça fait une très très grosse concurrence quand même.
Ça fait déjà une très grosse,
les étrangers, mais aussi toi directement avec les autres Français. Tu les regardes du coup toi un petit peu aussi les autres?
Ou je les regarde, c'est-à-dire?
Tu vois, par exemple, on pense à Danny Dan, là, qui est champion de France, champion d'Europe en titre. Il a gagné il y a un mois les World Series dont tu parlais justement à Rio. Est-ce que toi, cette concurrence-là, tu la regardes? Est-ce que ça te pousse, ça te motive au quotidien? Comment tu la vis?
Ah oui, c'est ça, c'est motivant surtout. Surtout, c'est motivant. Et puis, on se dit que tout est possible, quoi. En fait, il faut pas se mettre de barrière. Je pense que une carrière sportive, c'est ponctué de plein de moments différents. Il y a des moments où on surfe sur une bonne vague positive, et puis il y a des moments où c'est un peu plus complexe. Et puis, je pense qu'il faut juste pas lâcher, continuer à travailler. Et puis voilà. Mais c'est vrai qu'on a déjà en interne entre nous, on a une concurrence. Et il y a aussi la concurrence avec tous les autres. Donc les places sont très chères.
Le breakdance va faire son entrée pour la première fois aux Jeux Olympiques. Ce sera à Paris en 2024. L'un des représentants français est avec nous, Khalil Chabouni. On voudrait essayer de comprendre aussi un petit peu quel est le format des compétitions en breaking, Khalil. Est-ce que c'est tout de suite des battles dès les premiers tours, ou alors c'est un système de qualification? Comment ça marche?
Non, c'est des battles directement. Par exemple, si on prend, prenons un exemple, justement, je parlais des Breaking for Gold juste avant. Si on prend l'exemple d'un événement, voilà, Breaking for Gold, en fait, c'est typiquement, il y a des qualifications pour sortir un top 64. Et puis, ce top 64-là, là, ça fait 32 confrontations, donc 32 battles. Et puis c'est à élimination directe. Donc ensuite, ça fait un top 32. Top 32, pareil, ça fait 16 battles. Il en sortira 16. Et puis le lendemain, ce top 16-là, il y a un système de poules. Donc, il y a 4 poules de 4 danseurs. Et puis, tout le monde se rencontre. Donc, ça fait 3 battles. Et les deux qui ont le plus de victoires passent à l'étape suivante, c'est-à-dire les quarts de finale, ce qu'on appelle un top 8. Et après, ça repart sur un système d'élimination directe, donc top 8, top 4, finale.
Et combien de temps ça dure, un battle, généralement?
Un battle, ça dure en général, ça dure entre 2 et 3 minutes, un battle, on va dire. Après, l'événement, il est sur 2 jours complets, et en fait, c'est 2 jours full.
Ah ouais, très intense.
Le matin, et ça termine. Ouais, c'est très très intense. Bon, après, c'est vrai que c'est du jamais vu. Enfin, moi, je m'intéresse quand même à d'autres disciplines. C'est vrai que de rester un peu focus du matin jusqu'au soir, j'ai pas encore vu. En général, par exemple, un match de foot, ça dure 90 minutes.
Il y a ça en judo, parfois, ils font leur combat tout au long de la journée.
C'est vrai, c'est vrai. Mais après, ils ont aussi des systèmes qui font que, je crois que quand ils sont tête de série, ils ont moins de combats à faire, peut-être, c'est ça. Mais c'est un peu, on va dire que c'est quand même assez intense.
Est-ce que toi, ce système de battle, ça te plaît de te confronter directement comme ça à l'adversaire? C'est ça que t'aimes aussi dans le breaking?
Ouais, moi, c'est ça que j'aime dans la compétition, évidemment. C'est justement se répondre, cet échange mutuel, mais quand même qui est assez rude, parce qu'il y a un gagnant à la fin. Donc, c'est évidemment, moi, c'est ça qui me plaît, la compétition. C'est ce pourquoi je fais du breaking. C'est aussi parce que il y a des enjeux, il y a un peu d'adrénaline, du stress, mais il y a aussi un côté créatif, un côté musicalité qui donne une touche en plus, on va dire. C'est pas uniquement du sport, il y a aussi voilà tout ce côté culturel et artistique. Donc ouais c'est mais la compétition me plaît énormément.
Et qu'est-ce qui est jugé justement, parce que nous on va être beaucoup à découvrir hein, le breaking lors de ces Jeux Olympiques à Paris. Si on est devant la télé et qu'on veut essayer de comprendre, quand toi tu vas danser face à ton adversaire, qu'est-ce qui va être jugé et qui va faire que tu vas être qualifié plutôt que ton adversaire justement?
Bah, c'est en fait, c'est ça, c'est des critères de. Ils regardent un petit peu la technique. Donc, voilà, comment est-ce qu'on a pu développer nos mouvements, en fait? Et est-ce qu'on est très technique ou un peu moins? Il y a la musicalité, justement. Donc, ça, c'est plus quelque chose du moment. Donc, est-ce qu'on arrive à accorder nos mouvements sur la musique et à s'adapter sur le moment? Parce que, évidemment, la musique, on ne la connaît pas avant. C'est vraiment. Un Didier qui joue le son et puis
ah tu en la fait, découvres tu... directement lors de la compétition le moment venu quoi.
Voilà, c'est ça, à chaque battle c'est des musiques différentes, à chaque passage c'est des musiques différentes et en fait on n'est pas du tout sur des chorégraphies, c'est vraiment que du moment, donc voilà.
Ouais, faut t'adapter, ouais.
Il y a un critère de musicalité, voilà, il y a un critère de propreté aussi, est-ce que c'est lisible, est-ce que c'est bien propre. Voilà. C'est un peu sur ça les principaux, on va dire, les basiques.
Du coup, comment toi tu travailles au quotidien? On parlait de chorégraphie parfois. Est-ce que t'as un chorégraphe justement qui t'aide, ou alors c'est des mouvements que toi non, qui te viennent, que tu travailles de ton côté, que tu t'inspires de d'autres aussi peut-être? Comment ça marche?
Ouais, en fait, on a des mouvements basiques qu'on a tous bossé, etc. Mais après, on n'a pas du tout de chorégraphe. C'est pas du tout des chorégraphies. On va dire que c'est ce qu'on appelle des codes. On a des chemins un petit peu qui reviennent souvent dans notre danse. Mais après, dans ma manière de bosser personnellement, j'essaie de répéter justement certains codes et certains mouvements. Mais après, je laisse une part de liberté sur le moment. Je suis un peu en mode freestyle, on appelle ça. Je laisse libre cours à ce qui va sortir. Et en fait, il y a différentes manières d'aborder cette danse. Mais moi, je suis un peu comme ça. J'ai différents codes et puis je laisse une part de liberté, de freestyle selon ce qui se passe sur le moment et selon mes envies et mon inspiration, on va dire. Après, on a un coach France au Pôle France à l'INSEP. Qui nous donne des conseils et puis qui avec qui on peut échanger si on a des questions, mais arrivé à notre niveau, en fait on n'a pas quelqu'un derrière nous vraiment au quotidien, on n'a pas besoin de ça et puis c'est pas comme ça que ça fonctionne en fait.
Très bien, merci beaucoup Khalil d'avoir été avec nous sur RMC. On te retrouvera évidemment dans la page olympique hein, jusqu'au coup d'envoi de ces JO à Paris, en espérant et on croise les doigts pour que tu y sois et que tu nous fasses vivre encore plus tout ça au plus près. Merci beaucoup Khalil d'avoir été avec nous sur RMC, la page olympique que vous retrouvez évidemment tous les samedis à 14h sur RMC.
RMC, radio officielle des Jeux Olympiques Paris 2024.
Les dernières infos olympiques à venir dans quelques instants avec Clément Brossard. Juste le temps d'aller du côté du Giro, le Tour d'Italie, la 14e étape. Aujourd'hui, on va retrouver Pierre Amiche. Est-ce que les hommes de devant sont toujours devant, justement, Pierre?
Eh bien oui, Flora, ils sont toujours 29. Ils sont toujours 29. Ils comptent désormais 8 minutes 28 d'avance sur un peloton qui semble avoir déjà renoncé, alors qu'il reste un peu plus de 110 km à parcourir. On va quand même révéler le nom de quelques membres de cette échappée, avec tout d'abord les Français Nicolas Prodhomme qui porte les couleurs de AG2R Citroën. On va retrouver Bruno Armirail qui est le coureur le mieux placé de cette échappée, qui pointe à 18 minutes 37 au classement général, 18 minutes 37 du leader Guérin Thomas. Bruno Armirail qui défend les couleurs de la Groupama FDJ. Et on va retrouver deux coureurs qui vont eux représenter leur formation de Arkéa Samsic. Il s'agit de Thibaut Guernalec et Warren Barguil. Dans ce petit groupe, il y a malheureusement pour eux un véritable sprinter qui semble au-dessus du lot dans ce groupe des 29. Il s'agit de Fernando Gaviria, le seul Colombien qui sprint. On a l'habitude de voir les Colombiens grimpeurs. Eh bien non, lui c'est un grand fauve, spécialiste de la dernière ligne droite. Fernando Gaviria qui fait figure d'épouvantail dans cette échappée de 29 coureurs. On signalera que derrière, c'est la Jumbo-Visma qui assure la poursuite. La Jumbo-Visma qui ne porte pas le maillot rose de leader, puisque c'est Guérin Thomas qui le porte. Et puis une dernière information, c'est de la météo encore et toujours. On en parle beaucoup depuis le début de ce Giro. Aujourd'hui, eh bien, c'est un temps anglais. Il pleut sans cesse depuis 17 jours sur l'Italie. Et il fait très froid. 3 degrés annoncés au sommet du Simplon, du Pass del Simplon. Il fait à peu près 8 ou 9 degrés dans la vallée. Ça va être très long, très difficile pour rejoindre la ligne d'arrivée jusqu'à Cassa Magnano. Les coureurs souffrent beaucoup. On a vu beaucoup de coureurs qui s'étiraient ou qui tout simplement essayaient de se réchauffer. Et l'intégralité du peloton porte évidemment un coupe-vent. Ce qui, en cas de sprint massif, va pas faciliter ma tâche. Je ne te le cache pas, Flora, puisqu'on ne distingue pas qui est qui. Mais heureusement, j'ai l'œil, tu me connais. Un véritable œil de faucon. Voilà pour la situation. 29 hommes en tête, 110 km à parcourir. Le peloton qui pointe à 9 minutes, pas de grand bouleversement pour le classement général, à moins d'un exploit monumental de Bruno Armirail, premier français et surtout coureur le mieux placé de cette échappée, qui pointe à 18 minutes 37 du leader Guérin Thomas.
Allez, aiguise ton œil de faucon, Pierre, on te retrouve dans quelques instants évidemment pour la suite de cette 14e étape du Giro, on vous donnera évidemment les dernières infos olympiques dans En route pour Paris 2024 et puis à suivre aussi dans l'Intégral Sport le coup d'envoi de Bordeaux, Laval, c'est de la Ligue 2 et match capital pour les Bordelais dans la course à la montée. 14h41, on revient tout de suite sur RMC.
RMC Intégral Sport,
Flora Moussi. 14h45 sur RMC, merci d'être avec nous dans l'Intégral Sport, la suite de la page olympique dans quelques instants, mais d'abord on va aller en Ligue 2, la 36e journée, retrouver Arnaud Valado donc côté de Bordeaux. Salut Arnaud.
Salut Flora, salut à tous.
Ça vient de partir pour ce match face à Laval, un match tellement important pour les Girondins dans la course à la montée. Ils se sont un petit peu sabordés lors de la dernière journée.
Oui, un match nul à QRM, mais c'est quand même une équipe de Bordeaux qui est sur une bonne dynamique. Certes, ils ont perdu le match qu'il ne fallait pas contre Metz 3-0, mais sinon c'est que des succès pour les hommes de David Guillon. Un point d'avance sur les Messins, ils sont deuxièmes les Bordelais, on rappelle que les deux premiers seulement montent. Il est important, Metz qui jouera tout à l'heure à Guingamp, est important pour les Bordelais de gagner à la maison avant d'aller à Annecy et de terminer à domicile contre Rodez. Et les Lavallois, c'est la première équipe non relégable, un point d'avance seulement sur la zone rouge. Donc là aussi, il y aura un adversaire qui vendra chèrement sa peau. C'est parti depuis une minute devant un peu plus de 22 000 spectateurs. 0-0.
Coach Courbis est avec nous aussi. Salut coach.
Salut les amis.
Tu vas suivre salut évidemment ce match dans
ouais,
quelques instants avec
ouais, parce
Benoît.
Parce que vous dites, il est important pour Bordeaux pour la montée. Oui, okay,
et pour Laval aussi. Ouais. Effectivement, c'est un match aux doubles enjeux. Hein, tu l'as dit coach, mais c'est vrai qu'on a du mal à imaginer que Bordeaux ne soit pas en Ligue 1 la saison prochaine. Ce serait quand même dur dans cette fin de saison s'il manquait coach.
Oui. Parmi les clubs français qui sont très importants depuis de longues années, il y a déjà Saint-Étienne en Ligue 2. Donc Nantes est limite. Donc c'est vrai que je ne m'imagine pas voir notre Ligue 1 sans Nantes, Saint-Étienne et Bordeaux.
Puisque tu parles de la Ligue 1, coach, une info tiens à vous donner aussi. Vous savez, ce soir, il y a le choc entre Lille et Marseille à 21h. Eh bien, info RMC Sport, Dimitri Payet et Nuno Tavares ne sont pas dans le groupe pour ce match. Ils n'ont pas fait le voyage avec le reste de l'équipe. Un choix d'Igor Tudor qui a sanctionné les deux joueurs, mais content déjà de ne pas avoir été dans l'équipe des titulaires vendredi dernier. C'est chaud, hein, du côté de l'OM dans cette fin de saison. C'est pas assez de ces deux joueurs, coach. C'est un peu...
Oui, mais bon, là, c'est difficile
c'est
pour nous
Tudor,
de pouvoir juger qu'un garçon comme Payet puisse ne pas être content de la gestion qu'on a pu faire de lui depuis le début de la saison. On peut quand
ça
même être mécontent, surtout que c'est son dernier match. Et ensuite, il pensait, compte tenu des derniers matchs, qu'il pouvait être titulaire d'entrée quand il a dû s'apercevoir qu'il était qu'à la surprise, malheureusement une désagréable surprise, il n'était pas titulaire, c'est sûr qu'il a dû faire la gueule, et donc il s'est pris tout simplement un coup de pied au cul. Ça me paraît un petit peu sévère quand même.
Lille OM à suivre évidemment sur RMC ce soir à partir de 21h. Allez, on prend la route maintenant tout de suite de Paris 2024.
En route pour Paris 2024.
Avec la team RMC.
Et avec l'actualité olympique de la semaine avec Clément Brossard. Salut Clément. On le rappelle, la billetterie individuelle est ouverte depuis le 11 mai. Et comme lors du premier tour, il y a énormément de déçus et de personnes frustrées.
Exactement, parce que les prix s'envolent, évidemment, et en plus du grand public, eh bien, ce sont les athlètes eux-mêmes qui commencent à gronder, la judokate Amandine Bouchard notamment, sur ses réseaux sociaux. Il faut faire des crédits à la banque pour que les familles et proches puissent avoir la chance de venir nous voir. Les athlètes qualifiés auront le droit à 6 billets pour leurs proches lors de leur session de compétition. Rencontré cette semaine, Tony Estanguet préfère lui revenir sur l'engouement autour de cette seconde phase de billetterie, tout en rappelant la promesse de jeu qui s'autofinance en partie par la billetterie.
Déjà 36 disciplines qui sont épuisées sur cette deuxième phase de vente. Il en reste un peu plus d'une dizaine au moment où on se parle, mais ça va assez vite. Et voilà, il reste encore des places en foot, en athlétisme, en rugby, en golf, en voile, des places à moins de 50 euros. Mais c'est aussi effectivement 10% des billets à plus de 200 euros. Cette stratégie de financement des jeux nous permet d'équilibrer notre budget.
Et il y aura en fin d'année 2023 une nouvelle session de vente qui ouvrira. Pas de tirage au sort, ce sera au premier arrivé, le premier servi.
Ça promet. Du mécontentement aussi parce que les prix des billets se sont envolés, notamment pour la cérémonie d'ouverture. Des jauges ont été mises en place pour recevoir comme il se doit les spectateurs sur les quais.
Le chiffre qui devrait s'établir autour des 500 000 personnes, 100 000 billets payants sur les quais bas, et autour des 400 000 billets gratuits sur les quais hauts. C'est ce qu'a confié la ministre des Sports Amélie Oudéa-Castéra devant la commission des finances de l'Assemblée nationale cette semaine. 80 écrans devraient également être positionnés en bord de scène, des écrans géants pour ne rien louper de la cérémonie. On devra en savoir plus mardi lors d'un rendez-vous média organisé par le ministère des Sports et le ministre de l'Intérieur.
Une polémique maintenant en escrime à la suite d'une décision de la Confédération européenne concernant les Jeux européens programmés en Pologne. À l'inverse des épreuves par équipe, les épreuves individuelles, elles, ne seront pas qualificatives pour les JO de Paris, contrairement à ce qui avait été initialement prévu. Une décision prise uniquement pour laisser une chance aux Russes et aux Biélorusses de se qualifier.
Et ça passe pas très bien. Oui, les Russes et Biélorusses qui pouvaient pas disputer ces Jeux européens prévus en Pologne. La Confédération a décidé de reprogrammer une compétition au mois d'octobre et de ne faire gagner aucun point pour le classement international sur ces Jeux européens. Les classements des autres compétitions européennes seront également gelés. Les autres compétitions continentales aussi. Contacté ce matin, le président de la Fédération française d'escrime, Bruno Gard, regrette cette décision.
On accepte les Russes qui vont tirer en octobre, mais automatiquement, comme l'a annoncé l'Ukraine, l'Ukraine ne participera pas du moment qu'il y a les Russes. Pour permettre à une nation de participer, on enlève une autre nation. Donc, moi, je pense que ce n'était pas la solution. Là, on fait de la politique et je regrette qu'encore une fois, on soit en train de faire de la politique et plutôt que de laisser les règlements sportifs comme ils sont, et ça serait très bien pour tout le monde.
Et en plus de programmer une nouvelle compétition, eh bien ça apporte, Flora, un lot de conséquences. Évidemment, d'abord sur la forme des athlètes, la forme du staff, mais aussi sur le plan économique.
Et ça devient inhumain, quoi. Vous avez déjà vu des sportifs qui n'ont pas de repos, vous avez déjà vu des coachs qui n'ont pas de repos. Qui va payer une délégation qui part sur une autre... Voilà, qui paye ? Je ne sais pas, aujourd'hui, moi, je n'ai pas 5000 euros à mettre de plus au budget pour ce genre d'épreuve. Voilà, pour respecter un peu le système. Quoi. D'un coup, rajouter pour faire plaisir aux Russes, ce n'est pas ça qu'on doit faire. Il faut suivre les directives du CIO, point.
Et en ce moment même, un COMEX se réunit pour contrôler les profils des athlètes russes afin de s'assurer qu'ils n'aient pas soutenu ou participé au conflit russo-ukrainien, auquel cas, ils ne seront pas sélectionnables.
Eux seront bien présents à Paris en 2024 et représentent une grande chance de médaille pour l'équipe de France. Retenez bien leur nom, il s'agit des frères Lebrun.
Qui disputent en ce moment même leur premier championnat du monde individuel à Durban en Afrique du Sud. Les frères Alexis, 19 ans, 19e mondial, et Félix, 16 ans, 34e mondial. Les frères Lebrun donc sont la relève du tennis de table français. Léna Marjac les a rencontrés.
Même à l'entraînement, les deux frères se challengent, se taquinent, veulent gagner chaque point. Alexis, le plus grand, doit résister face à son frère.
Je sens qu'il joue très bien, donc j'essaye de continuer à bien m'entraîner pour réussir à qu'il ne me dépasse pas, mais c'est pas facile.
Félix, 16 ans, n'a encore jamais gagné.
Un jour, j'y arriverai, je vous promets. Mais il arrive encore à me surprendre en match que moi, j'ai un peu plus de mal à le faire.
Leur statut a aujourd'hui complètement changé. Surtout depuis qu'Alexis a battu le numéro 1 mondial, le chinois Fan Zhendong, il y a presque un mois, un véritable exploit.
C'est difficile de faire mieux comme match, de battre le numéro 1. J'ai vu que sur un match, sur une journée, je pouvais atteindre ce niveau-là, donc c'est pour ça que je ne mets pas de barrière.
Tous les deux défient les lois de la maturité, reconnaît leur entraîneur Nathanaël Molin.
Bien Alex, très bien.
J'ai toujours pensé que ce serait des immenses champions. Aujourd'hui, il le prouve, il commence à être de vrais champions. Mais on veut beaucoup plus. Il passe les étapes beaucoup plus vite. Il y a cette petite dose de talent, c'est surtout des grands travailleurs.
Sur les tournois, ils sont devenus des joueurs respectés, ressent Félix.
Au début, on arrivait, on était le jeune qui arrive. Maintenant, on est toujours jeune, mais ils nous connaissent un peu plus. mais forcément ils nous prennent plus au sérieux.
Et même en Chine, où le tennis de table est le sport national, on se méfie de ces deux joueurs.
J'ai l'impression que oui, ils font attention à ce qu'on fait. Ils nous analysent beaucoup, mais nous, on va essayer de faire de même pour rivaliser avec eux le plus longtemps possible.
Je pense que là, avec mes résultats, je suis rentré dans ce groupe-là de joueurs auxquels ils font attention.
Leur papa, Stéphane, reste étonné de leur progression si rapide en seulement 2 ans.
On s'y attendait quand même un petit peu. On voyait ce qui se produisait à l'entraînement. Je savais que ça allait arriver relativement vite après. Le faire en entraînement et réussir à le produire tout de suite en match, c'est de temps en temps, il y a un peu de battement. Là, ils l'ont fait tout de suite.
À ces championnats du monde, pour leur première participation, ils ne veulent pas se mettre de limites.
On sait que c'est une compète assez compliquée, mais je pense qu'il y a quand même de bonnes chances de gagner quelques matchs. Donc on va prendre match après match, essayer d'aller plus loin.
J'ai super hâte d'y être et d'essayer d'y performer un maximum.
Mais ils ont surtout en tête un rêve commun, souligne Félix.
Je l'ai noté sur un petit bout de papier quand j'avais 6 ans. Moi, mon rêve depuis toujours, c'est que je gagne les JO contre lui en finale.
Alexis et Félix veulent marquer l'histoire de leur sport. Une médaille mondiale cette semaine serait une première depuis 1997.
Un mot de sport collectif maintenant, Clément, avec l'Euro de basket féminin qui approche à grands pas. Ça débute le 15 juin prochain et déjà, les JO sont dans toutes les têtes pour les Bleus.
Un Euro qui aura lieu en Israël et en Serbie. La Serbie dans le groupe des Bleus avec l'Espagne et la Belgique. Ce sera évidemment une préparation pour les Jeux de Paris. Les Françaises ont été médaillées d'argent 5 fois sur les 10 dernières années. Cette fois, elles veulent la gagne, comme l'explique l'arrière de Bourges et de l'équipe de France, Sarah Michel.
On a fait 5 finales, on a fini sur la 2e marche et on a envie de finir sur la plus belle marche avant les Jeux Olympiques. Mais bien sûr, ça reste pour tout sportif l'objectif ultime. On y pense à chaque fois, mais il y a toujours des objectifs intermédiaires comme l'Euro. Donc on est plus concentré sur ça, en tout cas actuellement.
On termine avec le rugby à 7 dernières étapes des Sevens World Series. En ce moment même à Londres, on connaîtra les premiers qualifiés pour les JO chez les hommes, alors que chez les femmes, eh bien, c'est déjà fait.
Parce que la saison est déjà terminée pour les filles. En plus de la France pays organisateur, les Néo-Zélandaises, les Australiennes, les Américaines et les Irlandaises ont d'ores et déjà validé leur billet pour Paris l'an prochain. Chez les hommes, le dernier tournoi de la saison a lieu en ce moment même à Londres. La Nouvelle-Zélande, l'Argentine et les Fidji sont certains d'être comme nos bleus qualifiés. Le dernier ticket à distribuer à l'issue de la saison se jouera entre l'Australie, les Samoa et l'Afrique du Sud. L'Australie et les Samoa dans le groupe des Français à Londres. Les Bleus qui ont perdu leur premier match contre les Samoa et qui actuellement affrontent l'Espagne. C'est même terminé il y a quelques instants. Victoire de l'équipe de France 35-21. Et ça, on aime bien, Flora. Le dernier match de groupe, ce sera face à l'Australie à 17h30.
Tu reviens quand tu veux pour nous annoncer des bonnes nouvelles. Merci beaucoup, bien. Clément. Retour de la page olympique, évidemment, comme tous les samedis.
RMC. Radio officielle des Jeux Olympiques Paris 2024.
On file du côté de Bordeaux, la Ligue 2, Arnaud Valadon avec les Bordelais qui ont ouvert le score face à Laval.
Ouais, ça n'a pas traîné. 12 minutes de jouer, 1-0 pour Bordeaux avec ce but dès la 3e de Johan Barbet, le capitaine. Un coup franc provoqué par David Ajvili, l'ailier droit bordelais à l'entrée de la surface de réparation et à 25 mètres. Le gaucher capitaine bordelais Barbet vient frapper côté ouvert pour tromper Alexis Sauvage. Et donc déjà 1-0 pour Bordeaux qui, eh bien pour l'instant, conforte sa 2e place.
Ça sera évidemment à suivre dans quelques instants dans l'intégral sport avec Benoît Boutron. Un point rapide sur le Giro, la 14e étape, Pierre Amiche.
Eh bien, c'est la mi-temps. 97 km de parcouru, 97 km à parcourir. Et toujours 29 hommes en tête qui comptent désormais 9 minutes 14 d'avance sur un peloton qui semble avoir renoncé. 4 Français dans l'échappée et un grand favori, le sprinter Fernando Gaviria. Il reste 96 km 300 jusqu'à l'arrivée à Casso Magnano.
14h57 sur RMC, l'Intégral Sport revient tout de suite dans quelques instants avec Benoît Boutron.
RMC, Intégral Sport.
Benoît Boutron.
Salut à tous, bienvenue, c'est donc l'Intégral Sport et nous sommes ensemble jusqu'à 17h avec le grand, l'unique, l'immense coach Courbis à mes côtés. Salut Roland, ça va?
Salut les amis, ça va très bien.
Ancien coach des Girondins de Bordeaux, c'est l'un des directs de l'après-midi. On suit ce match de Ligue 2 entre Bordeaux et Laval. On retrouvera Arnaud Valadon dans un instant au Matmut Atlantique. Juste vous signaler que Bordeaux mène 1-0. Mais vous le savez, l'événement de la journée, c'est la finale de la Champions Cup de rugby entre le Leinster et la Rochelle. C'est le remake de la finale de l'an dernier remportée par les Rochelais. Présentation de cette affiche dans un instant avec la voix du rugby sur RMC. Wilfried Templier qui est en direct de la Viva Stadium. Le foot, c'est également la Ligue 1. On aura un invité à 15h40, Roland, Adrien Thomasson, milieu de terrain lensois, qui sera en direct avec nous en veille de Lorient Lens, les Lensois qui veulent à tout prix conserver leur deuxième place synonyme de Ligue des Champions. Et puis à partir de 16h, présentation de Lille-Marseille, c'est l'affiche de la journée. À 21h, Marseille sans Payet ni Nuno Tavares, pas convoqué par le coach Igor Tudor. Vous retrouvez toutes les infos sur rmcsport.fr. Et puis autre direct, le cyclisme. 14e étape du Giro entre Sierre Cassano et Magnano. On suit cette étape avec Pierre Amiche. Et autre direct de rugby, la demi-finale de Pro D2 entre Oyonnax et Vannes. Une après-midi riche, c'est parti sur RMC. Et on y va justement sur les différentes pelouses. Allons au Matmut Atlantique. Donc Bordeaux qui reçoit Laval. C'est la 36e journée de Ligue 2. Les Bordelais étaient sous pression. Ils veulent conserver cette deuxième place. Et ça se passe bien pour eux. Salut Arnaud Valadon.
Salut Benoît. Re-salut coach. 22 minutes de jouer ici au Matmut Atlantique. Et 1-0 pour les Bordelais avec ce coup franc du capitaine Johan Barbet dès la 3e. Mais attention, les Bordelais se font un petit peu peur. On voit des Lavallois qui jouent leur peau en Ligue 2. Ils n'ont qu'un point d'avance sur la zone rouge et Valenciennes. Donc c'est un match à fort enjeu pour les deux équipes. Mais pour l'instant, c'est comme tu l'as dit, Bordeaux qui fait la bonne opération en menant 1-0. On rappelle qu'au coup d'envoi, les Bordelais n'avaient qu'un seul point d'avance sur Metz. À noter qu'ils ont une moins bonne différence de but que les Messins. Il reste 3 matchs. Et donc forcément, avec ce succès qui pour l'instant se dessine, on n'est qu'à la 22e, mais il y a quand même 1-0 pour Bordeaux. Et bien l'opération serait très bonne pour les Girondins, les hommes de David Guillon, qui iront à Annecy avant de recevoir Rodez pour éventuellement valider le retour en Ligue 1 dans un peu plus de 2 semaines.
Ouais, et Metz qui se déplace à Guingamp ce soir à 19h, un match à suivre sur RMC. Et mine de rien, Roland, ça met un peu la pression sur les épaules des Havrais qui sont toujours leaders de ce championnat. Mais provisoirement, Bordeaux revient à 2 points du Havre, le Havre qui a été battu lors de la dernière journée à Annecy. Ça se resserre.
Oui, je pense surtout que la bataille c'est entre Metz et Bordeaux. En ce qui concerne le Havre, je crois, si je ne me trompe pas, qu'il leur faut un tout petit point. Donc on peut leur faire confiance, ils vont l'obtenir.
Tu veux que je te dise, Roland, sur les calculs, je te fais confiance. Les calculs de fin de saison, c'est ton truc. Je te fais confiance.
Disons que ça n'a pas été un amusement pour moi, mais ça a été une obligation pendant de longues années.
Alors Roland, autre direct, le Giro, le Tour d'Italie, la 14e étape entre Sierre Cassano et Magnano. On suit ça avec un spécialiste, c'est Pierre Amiche. Salut Pierrot.
Salut Benoît, rebonjour Roland.
Salut, c'est pas une étape de rêve. Où en est-on Pierrot alors?
Eh bien il reste 87 km 400 à parcourir. On va retrouver 29 échappés, parmi lesquels 4 Français. Le mieux classé de cet échappé, c'est un Français, Bruno Armirail, qui pointe à 18 minutes 37. Et pour l'instant, le peloton semble déjà avoir renoncé, puisqu'il pointe à 10 minutes 14. Ça risque donc de se jouer entre les 29. Malheureusement pour les 28 autres, il y a un pur sprinter, Fernando Gaviria. Le reste de l'étape, c'est du plat, du plat, du plat. Il reste, je te l'ai dit, Roland, 87 km. Si tu veux parier, c'est peut-être un peu tard, parce que la cote va être très très basse. Mais Fernando Gaviria fait figure d'épouvantail. Il va falloir réussir à le lâcher. Il reste donc 86 km 900 désormais pour les 4 Français. Pourquoi pas pour décrocher une nouvelle victoire d'étape tricolore, la seconde sur ce Giro.
Il pleut encore en Italie, hein. C'est terrible,
horrible
pour les coureurs.
C'est horrible, 17 jours, on dirait la mousson, vraiment en Asie, c'est fou. Les pauvres, d'ailleurs il y a eu des mouvements dans la descente, parce qu'il y a eu une seule montée aujourd'hui, le passo Simplon, qui est 19 km à 6%, en haut il faisait 4 degrés, et dans la descente on a vu, et c'est rare, hein, 20 mai, les coureurs avec la parka quasiment, faire des mouvements pour ne pas attraper froid. La moitié du peloton est malade, il y a le Covid qui traîne parmi les équipes.
Il n'y a pas la sécheresse là-dedans.
Non, pas vraiment. Non, là, ils sont plutôt tranquilles au niveau de la sécheresse. En revanche, les coureurs ont vraiment très très froid. Ils ont les gants, le coupe-vent et au fond du peloton, on fait des mouvements pour pas mourir de froid tout simplement.
Bon, Pierrot, tu nous tiens informé de ce qui se passe sur le Giro. Donc, on l'a dit.
Bien sûr.
La 14e étape. Le rugby également. Avant de parler de la finale de Champions Cup, il y a une demi-finale de Pro D2 entre Oyonnax et Vannes. Je vous tiens informé du score. 9 minutes de jeu pour l'instant. 0-0. Rappelons qu'Oyonnax a écrasé la saison régulière et que Vannes est allé gagner à 9h en bas. Barrage, Vannes qui était cinquième de la saison régulière, donc a priori Oyonnax a l'avantage sur le papier, mais pour l'instant il y a toujours 0-0.
Ouais,
mais
on l'a dit sur le papier et aussi sur la fraîcheur.
Eh oui, en plus.
Donc pendant que Vannes faisait un exploit, Oyonnax était tranquillement devant la télé.
Roland, 15h10, l'événement de la journée, c'est la finale de la Champions Cup entre le Leinster et La Rochelle à la Viva Stadium de Dublin, remake de la finale de l'an dernier remportée 24-21 par les Rochelais au Stade Vélodrome, troisième finale consécutive pour La Rochelle, coup d'envoi 17h45, match qui sera commenté par la voix du rugby sur RMC, Wilfried Templier qui est à Dublin. Salut Wilfried.
Salut Benoît, salut coach. Je salue coach, notre consultant rugby sur les phases finales de Pro D2. Bravo.
Bah, t'as l'air surpris.
Bravo pour l'œil, et la fraîcheur que... et les barrages et, non, mais et tout ça.
Sans jamais, j'ai dit et je continue à dire, on progresse à tout âge. Donc je vais essayer de montrer l'exemple et d'être un peu moins incompétent en rugby.
Ce qui est dingue, Wilfried, c'est que ça te surprenne toujours.
Non, ça ne me surprend pas, je souligne, bravo, ouais. Bravo.
Bon, parlons de ce match, Wilfried, oui. Cette finale qui nous attend, qui nous excite, 17h45 à suivre avec toi, avec Denis Charvet, avec Christophe Cessieux. Le grand favori, c'est le Leinster, c'est l'ossature de l'équipe d'Irlande, c'est la première nation mondiale, l'équipe d'Irlande, la favorite pour la Coupe du Monde en France qui sera à suivre du 8 septembre au 28 octobre sur RMC. Précisons déjà que le contexte est hostile au Rochelais, hein. Là il y a tout en leur défaveur, entre guillemets, quoi.
Effectivement, parce que l'année dernière c'était à Marseille, c'est la loterie de la désignation des lieux des finales, tout simplement. C'est Dublin cette année, ce sera le stade de Tottenham d'ailleurs l'année prochaine pour les finales de Coupe d'Europe. Et donc le Leinster a totalement fait sa phase finale de Champions Cup à domicile parce qu'ils étaient premiers de la poule A, donc c'était l'avantage qu'ils avaient. La Rochelle était premier de la poule B, a aussi joué à domicile. Ils ont été au Matmut à Bordeaux, qu'ils ont rempli magnifiquement. Il y avait plus de 40 000 Rochelais pour la victoire contre Exeter, mais le Leinster, à domicile, c'est intransigeant cette année. Rien qu'en poule, ils ont mis 57-0 à Gloucester, ils ont mis 36-10 au Racing. On arrive en phase finale en 8e contre l'Ulster, 30-15 contre les Anglais de Leicester, 55-24, et Toulouse en demi, 41-22. Autant vous dire qu'ils sont dans leur jardin, ils sont habitués. Tu as parlé des internationaux irlandais, ils jouent aussi ici à la Viva, ils sont chez eux. Il y aura 50 000, on va dire, allez, aux alentours de 50 000 irlandais dans le stade, parce qu'on annonce 3 000 Rochelais, mais ça va pousser fort pour eux. Autant le stade Vélodrome était poussé derrière la Rochelle l'année dernière, autant là c'est carrément à l'extérieur pour le Stade Rochelais. Alors c'est une montagne pour la Rochelle, parce que l'expérience est quand même du côté Leinster, 4 fois vainqueur du trophée, même s'il a changé un peu ce trophée puisque les Sud-Africains sont venus dans cette Coupe d'Europe. Et bien ils veulent gagner le 5e pour rejoindre Toulouse, ils disent que c'est la même compétition. C'est marrant parce que les Toulousains disaient la compétition a changé, nous on a gagné 5, ça y est, on est passé à autre chose, maintenant faut gagner la première. Mais eux ils disent bien ici, nous on veut la 5e étoile pour rejoindre Toulouse.
Et d'ailleurs j'ai assisté à cette scène ce matin, on parlait avec Wilfried au téléphone, il s'est fait chambrer comme ça quand on était au téléphone par un taxi irlandais. Il t'a chopé
le taxi
direct,
tout de suite direct. Il avait le maillot du Leinster, il est très jouant.
Exactement. Roland, tu voulais dire un truc sur...
Ben oui, c'est-à-dire je vais regarder, compte tenu de l'importance et compte tenu de la valeur de cette équipe de Leinster, je vais regarder ce match-là avec beaucoup d'attention. Donc même si paraît-il c'est mission impossible puisque c'est pratiquement l'équipe nationale d'Irlande qui est elle-même irrésistible, si je vois une équipe capable de faire l'exploit, ben je vois La Rochelle. Ensuite, La Rochelle pourra être aidée par Toulouse qui habituellement est brillant, mais là ce jour-là je les ai trouvés complètement indisciplinés et bizarrement dès qu'il y a eu un carton jaune, je crois que derrière ça a été un petit massacre. Donc La Rochelle, c'est aussi ce qu'il ne faut pas faire. Mais moi, comme je suis mauvais perdant, comme je suis chauvin, donc ça fait quand même pas mal de défauts. En plus de ça, j'ai peur, tu sais, de celui qui a le sifflet à la main, comme on appelle. Ah oui, ça y est, l'arbitre. Tu vois, mais en plus qu'ils sont très forts, je pense que, non pas on est à 15 à 14 quand il y a ces matchs-là, on est à 16 contre 15. Mais bon, tu sais aussi qu'il y a une de mes phrases préférées, je peux me tromper. Mais je peux aussi ne pas me tromper.
Non, mais il a raison, Roland. C'est vrai qu'on en parle.
Oui, il a raison.
Peu, mais
bien sûr. Il a raison, la discipline.
L'ambiance,
oui, parce que Toulouse a pris un carton jaune par Ramos en première mi-temps, a pris 3 essais, a pris un carton jaune avec Nettie en deuxième mi-temps, a pris 2 essais derrière. Ah ouais. Un essai. Ça fait 28 points, je crois, en infériorité numérique. C'est face à cette équipe, cette machine qui va tellement vite.
Ces joueurs-là, mathématiquement, c'est facile de compter.
Alors. Il est 15h15, vous écoutez RMC l'Intégral Sport, on parle de la finale de la Champions Cup à suivre des 17h45 entre le Leinster, l'équipe d'Irlande et donc La Rochelle évidemment qui était finaliste des deux des éditions précédentes. La Rochelle vit une troisième finale consécutive. Dans un instant Wilfried, tu nous donnes
les... extraordinaire.
Ah bah c'est fou, pour un club comme La Rochelle, la trajectoire et l'ascension est fulgurante pour le Stade Rochelais. On en parle dans un instant des raisons d'y croire. Petit détour tout de même par le Matmut Atlantique parce que tu avais raison Arnaud Valadon, les Bordelais Rennes se font peur face à Laval. Hein.
Ouais, la 31e, 1-0 pour Bordeaux face à Laval avec ce but précoce de Johan Barbet, la 3e. Et depuis, eh bien, les Bordelais n'inquiètent pas Alexis Sauvage, le gardien lavallois. Et c'est même plutôt les Lavallois, les Tangos, qui sont menaçants. Ça percute avec Bobichon à droite ou encore Edson Sedou, le numéro 25 Tango, qui est peut-être le meilleur joueur lavallois sur cette partie. On a vu des situations, des corners. On a vu une tentative de Neji repoussée au premier poteau dans un angle fermé par Gaëtan Poussin. Bref, les Bordelais ne sont pas sereins face à des Lavallois, premiers non relégables et qui doivent à tout prix aller chercher un résultat pour espérer se maintenir en Ligue 2 la saison prochaine à un quart d'heure de la mi-temps. Un petit but d'avance seulement pour les Girondins.
Wilfried Templier, donne-nous des motifs d'espoir pour les Rochelais dans cette finale de Champions Cup face au Leinster.
Bah, ce sont eux qui sont les tenants du titre, tout simplement. Ils sont invaincus dans cette compétition, dans l'histoire de cette compétition face au Leinster, parce qu'ils ont joué deux fois et deux fois ils ont gagné. Il y a deux ans, pour se hisser en finale face à Toulouse, ils avaient battu le Leinster en demi-finale, 32-23. L'année dernière à Marseille.
C'était où le match?
C'était à La Rochelle, mais c'était en période de Covid, donc c'était à huis clos en fait. Mais c'était à La Rochelle, mais voilà, le soutien des supporters n'était pas vraiment là. 32-23, et puis l'année dernière, sur le gong, dernière seconde, dernière minute, avec l'essai d'Arthur Rottière, après 9 minutes de pilonnage de la ligne du Leinster, victoire 24-21. Et puis, La Rochelle, quand même, on va dire, c'est...
But de Bordeaux.
Renforce.
Ah, Arnaud Valadon.
Oh, quel but de David Ashvili pour les Girondins, qui n'étaient pas bien, je vous le disais. Et Zurico, David Ashvili, venu faire un show magnifiquement lancé dans la profondeur. Il crochette son vis-à-vis lavallois pour revenir sur son pied droit. Il enroule à 8 mètres de la cage de Sauvage dans la surface de réparation. Magnifique but de l'ailier bordelais. Et ça permet donc aux Girondins de faire le break.
Il a plutôt un nom de rugbyman, mais il sait jouer.
De pilier même.
C'est ce que je me disais, ouais, c'est ça, exactement.
Non, plaisanterie mis à part, le premier but, celui qui obtient le coup franc, c'est lui aussi.
Ouais, c'est lui.
Grosse saison, hein, David Ashvili. Ça fait 2-0 pour Bordeaux face à Laval, c'est la 36e journée de Ligue 2. Wilfried, on poursuit donc sur la finale de Champions Cup, sur les motifs d'espoir pour les Rochelais. On le disait, donc effectivement, ils sont tenants du titre, ils ont un énorme parcours et une énorme série d'invincibilité dans cette compétition d'ailleurs, Wilfried.
15, ouais. Je te parlais de cette finale face à Toulouse perdue en 2021, depuis non plus perdu. 15 victoires matchs. De rang.
15 victoires.
Donc ça donne, ouais, 15 victoires, ça donne de la confiance. L'équipe s'est renforcée, on va dire, hein, parce que, il y a Tawera Carbarlo, qui n'était pas de la finale, qui était blessé l'année dernière, donc qui est là, avec deux recrues, Antoine Astoy à l'ouverture, hein, qui est arrivé de Pau, qui est un buteur fiable, Setenny aussi, le 3/4 centre de Bordeaux, qui est très bon au centre, et puis voilà, il dégage une certaine confiance. Je pense que le plafond de verre, ils avaient perdu. On parle de la 3e finale de suite de Champions Cup, mais c'est même la 4e européenne, parce qu'en 2019, ils étaient finalistes de la Challenge Cup face à Clermont. Donc c'est la 4e finale de suite européenne pour le club. Donc ça, et ils avaient perdu Clermont, ils avaient perdu Toulouse en Coupe d'Europe, ils avaient perdu Toulouse en Top 14. Et je pense qu'ils ont brisé un peu leur plafond de verre l'année dernière en remportant ce titre. C'est en tout cas ce que nous a dit, écoutez, le capitaine de La Rochelle et l'international français, le 3e instance, Grégory Aldrit.
Bien sûr que ça a changé énormément de choses parce que on a vraiment pris confiance à nous, à notre stratégie, à ce qu'on travaille. Les deux finales perdues avaient été très dures à encaisser parce que je pense que le groupe, le club, ne satisfait pas de finale. C'est pas des choses qu'on aime retenir. Donc voilà, ce titre, il nous a prouvé qu'on pouvait gagner, qu'on pouvait gagner des titres et qu'on pouvait être une grande équipe. Donc voilà, ça nous a amené beaucoup de confiance, je dirais.
Et oui, forcément, il y a de la confiance. Et puis, on estime également sur le papier que cette équipe rochelle n'a jamais été aussi forte, Wilfried. C'est ça qu'il faut dire. Il y avait des vrais choix à faire pour le coach Roland Nogara, dont on va parler dans un instant. Mais il avait justement beaucoup de choix à effectuer parce que son effectif est de qualité et de quantité. Hein.
Effectivement, les deux, ils sont renforcés en première ligne avec l'arrivée de Colombe, l'ancien pilier du Racing. Ils ont deux premières lignes, allez, pas de niveau égal, mais quasiment. Je vous ai cité Astoy, Setenny, voilà, il s'est gratté la tête parce qu'il y a Johan Tanga qui jouait au Racing, qui n'est même pas sur la feuille. Teddy Thomas qui est blessé, mais qui sont même pas sur la feuille. Donc voilà, c'est bon signe si un coach se gratte la tête pour faire une équipe en phase finale. Ça veut dire que voilà, il a des forces vives à disposition. Mais je suis presque étonné par la confiance qu'ils affichent. Mais on verra justement dans ce match, il n'y a pas trop plein de confiance ou si c'est vraiment, ils sont sûrs de leur force.
15h20 sur RMC, le direct de l'après-midi également, c'est le quintet. Oui, c'est la tradition à 15h20, tous les samedis, tous les dimanches après-midi. Et le quintet se déroule aujourd'hui sur l'hippodrome d'Auteuil. On le suit avec Mathieu Zaccanini, dit le Zac. Salut Mathieu.
Salut Benoît, salut à tous. On se retrouve sur l'hippodrome d'Auteuil pour une magnifique épreuve. La grande course de haies d'Auteuil, un groupe 1 qui est le plus haut niveau dans les courses hippiques, disputé sur la très longue distance des 5100 mètres. Ils étaient 15 sauteurs à prendre part à cette compétition. Et on arrive dans la ligne d'en face. Il reste désormais 3 haies à sauter. Ils vont rentrer dans le tournant final. C'est toujours le numéro 1, Ferronilli. Les Britanniques n'ont pas ménagé leurs efforts puisque pour l'instant c'est eux qui étaient à l'avant-garde, mais pour l'instant c'est toujours ce numéro 1, l'animateur de l'épreuve, Ferronilli, qui tente de repartir. Mais attention, il y a différentes attaques avec notamment le numéro 12, hein, Hermès B, qui est un cheval français qui était toujours placé, vu derrière les animateurs, et qui semble aller facilement avec d'évidentes ressources. Et pour l'instant il dépose, hein, Ferronilli. Il passe une attaque, une banderie, on arrive dans la ligne droite désormais avec toujours ce numéro 12, hein, Hermès B. Ils sont 3 de front toujours, mais le 12 a pris le meilleur. Le numéro 1, l'animateur Ferronilli qui se montre accrocheur et qui va essayer de conserver un accessible dans son dos. On peut noter la présence du numéro de Classical Dream, hein, qui semble également être compétitif. Pour l'instant c'est les écuries Papeau, hein. Le numéro 12, Hermès B, qui repousse les différentes attaques avec son extérieur. Il y a le numéro 9, Telem, qui finit de plus en plus fort. C'est le favori de la compétition, hein. Arnaud Chaillet, son entraîneur, il était confiant, il était intervenu dans l'émission des courses RMC. Ils sont toujours deux, mais le numéro 9, hein, Telem, prend le meilleur, hein. Sur le numéro 12, Hermès B, les chevaux français font l'arrivée. La troisième place, c'est revenu au numéro 2, Classical Dream, en retrait. La quatrième, très certainement, au numéro 11, Ewick. Et il y aura une photographie. On va regarder pour la cinquième place. En tout cas, les chevaux français se sont montrés les plus forts aujourd'hui, hein, face aux Britanniques. Ils étaient nombreux. Il y avait une grosse armada et ils avaient imprimé un rythme assez soutenu. Mais finalement, les Français ont maîtrisé leur sujet. Ils ont été patients durant ce parcours très long. Et donc, c'est une victoire qui est revenue au numéro 9, Telem, qui s'est imposé de très belle manière. Il a fini favori de l'épreuve à, je crois, 3 contre 1. La deuxième place est revenue au numéro 12, Hermès B, qui finit deuxième, troisième pour le numéro 2, Classical Dream, quatrième donc pour le numéro 11, Ewick. Et enfin, en très très net retrait, c'est l'animateur de l'épreuve, numéro 1, Ferronilli, qui se classe cinquième, ce qui nous donne une arrivée provisoire et chiffrée du quintet disputé aujourd'hui sur l'hipporome d'Auteuil. 9, 12, 2, 11 et As. Et je reviens à 16h pour vous donner l'arrivée, les rapports de cette compétition, Benoît, tout à l'heure.
PMU, que les meilleurs gagnent. Jouer comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
Vous écoutez RMC, les 15h22. C'est l'intégral sport avec coach Courbis. Bordeaux mène 2-0 contre Laval en Ligue 2. C'est le début de la 36e journée. On parle également du rugby. C'est l'événement de cet après-midi. La finale de Champions Cup entre le Leinster et La Rochelle. La Rochelle également qui peut compter sur un homme clé, Wilfried Templier. C'est l'entraîneur irlandais Ronan O'Gara, légende du Munster et non pas du Leinster.
Oui, l'ennemi irlandais à Cork, loin d'ici de Dublin. Donc Ronan O'Gara, une légende ici en Irlande, surtout qui a gagné deux fois en tant que joueur avec le Munster cette compétition, qui est le meilleur réalisateur de l'histoire de la compétition, 1365 points, le joueur qui a disputé le plus de matchs de Coupe d'Europe, 110. Il a amené toute son expérience, il a décomplexé en fait l'équipe rochelaise. Franchement, il a fait passer l'équipe rochelaise dans une autre dimension depuis 2019 qu'il est arrivé, avec beaucoup de finales, vous l'avez entendu, un titre. C'est une clé et il connaît très bien le Leinster, il connaît très bien la compétition, donc il a des clés à donner à ses joueurs.
Merci Wilfried, tu restes en forme, hein. 17h45 le coup d'envoi de cette finale.
Je vais essayer.
Avec Denis Charvet, avec Christophe Cessieux, avant match dès 17h, ça va être passionnant. On te retrouve tout au long de l'après-midi évidemment. On ira faire un point justement sur ce qui se passe à La Rochelle avec Romain Asselin dans un instant. Je vous rappelle le direct de l'après-midi, Bordeaux mène 2-0 contre Laval. On fera un point de Giro également avec Kiramis dans quelques secondes. Et puis on parlera aussi du rugby avec cette demi-finale de Pro D2 qui est en cours entre Oyonnax et Vannes. Pour info, c'est Vannes qui mène pour l'instant 12-7 sur la pelouse de Yona, tout de suite sur RMC.
RMC Intégral Sport.
Benoît Boutron.
15h28 RMC Intégral Sport avec coach Courbis jusqu'à 17h. L'événement de la journée, c'est la finale de la Champions Cup, évidemment, entre La Rochelle et le Leinster, à suivre dès 17h45. On a des directs et un pénalty à venir pour les Girondins de Bordeaux face à Laval, Arnaud Valadon.
Et ouais, provoqué par Dylan Bakoua, c'est lui qui avait fait la très belle passe pour le deuxième but et cette réalisation de David Ajvili. Là, il a fait un show dans la surface de réparation en éliminant un défenseur lavallois, puis ensuite à l'angle de la surface de but, Alexis Sauvage sort, il le crochette, Sauvage touche Dylan Bakoua et donc ça fait pénalty, monsieur Lissor.
Hein.
Il
n'y
a pas de contestation possible. Hein. Ouais. Les Bordelais.
Où, s'il te plaît, au goal average, Metz et Bordeaux.
Alors là, il y avait 4 buts d'écart au coup d'envoi.
En faveur de qui?
En faveur des Messins.
D'accord.
Plus 26 pour Metz, plus 22 pour Bordeaux. Juste le pénalty important, c'est Josh Maja qui va le frapper. On joue depuis 45 minutes. 2-0 pour Bordeaux. Évidemment, là, c'est plus qu'un break dans les pieds de l'attaquant bordelais. Maja, c'est arrêté par Sauvage. Oh. C'est arrêté par Alexis Sauvage, frappé sur la gauche. Assez fort, mais pas très bien placé, ce pénalty de Josh Maja. Donc, on en reste pour l'instant à 2-0 en faveur des Girondins. Et le point évidemment important, goal average, parce que coach ne regarde pas uniquement le classement. Mm-hmm. La différence de but de Metz, c'est plus 26 avec 56 buts marqués. Là, les Bordelais sont à plus 24 avec 50 buts marqués. Okay. Donc, deux buts d'écart, mais une moins bonne attaque.
On sait que ça sera le critère d'après. Le règlement, ce n'est pas goal average particulier, c'est goal average général.
Exactement. Donc, on en reste pour l'instant à 2-0 pour Bordeaux contre Laval. Autre direct, le Giro, toujours sous la pluie, cette 14e étape qui est en cours, les 70 derniers kilomètres, Pierre-Amiche.
69 kilomètres, 700 de souffrance pour ces coureurs. Ils ne sont plus que 132 en course, un nouvel abandon. Et pour te résumer la situation, il reste donc 69 kilomètres, 629 hommes en tête. Le peloton pointe désormais à 12 minutes 16. Il a complètement lâché, un peloton toujours emmené par les leaders Ineos et leur numéro 1, Geraint Thomas. Et puis, il y a un cas particulier, celui d'Alexander Konitschev, le coureur de la team Coratec. C'est un mystère. Il pointe à 5 minutes des échappés et à 7 minutes du peloton. On appelle ça être en chasse patate. Il est tout seul au milieu de la pampa. Il n'a pas une voiture qui l'accompagne. Et en fait, la petite histoire est assez curieuse. Il s'est relevé en haut du sommet, c'est la seule difficulté du jour, hein, le Simplon Passo. Il s'est relevé pour mettre des vêtements secs. Et puis d'un coup, il s'est rendu compte qu'il était seul au monde et personne ne l'a attendu. Donc, il se retrouve dans une situation abominable. Voilà pour la situation globale. Dans le détail, je vais pas te donner le nom des 29 échappés. On notera quand même 4 Français, Nicolas Prodhomme, Bruno Armirail, le mieux classé de cette échappée à 18 minutes, Warren Barguil et Thibaut Guernalec. Et puis un coureur qui fait peur à tout le monde, c'est l'épouvantail. Ah ouais. C'est le grand sprinter colombien Fernando Gaviria, immense favori. Il reste donc 69 km avant de relier Cassano Magnano.
15h31 sur RMC, dans un peu moins de 2h15, coup d'envoi de la finale de la Champions Cup. Donc à Dublin, entre le Leinster et la Rochelle, on y croit pour les Rochelais qui veulent conserver leur titre. On rejoint Pierre Thévenet aux abords de l'Aviva Stadium. Salut Pierre, est-ce que l'ambiance commence à monter alors autour de toi ?
Salut Benoît, salut à tous. Ouais, ça commence à monter très franchement. Là, on attend tous l'arrivée des bus et des joueurs. Je suis à l'entrée du stade. Imaginez simplement une marée bleue. Les supporters du Leinster sont tous vêtus de bleu. Ils se sont fait distribuer des drapeaux. Et dans cette marée, les Rochelais se laissent pas démonter. Ils tentent de lancer des chants. Là, je suis avec Jordan, supporter Rochelais. Bonjour Jordan.
Bonjour.
C'est la première fois que tu viens à Dublin. Est-ce que c'est impressionnant ?
Ah, c'est assez impressionnant. Il y a une ferveur assez importante ici à Dublin. Donc, on va essayer de contrer les supporters irlandais avec nos 3 000 ou 4 000 supporters rochelais.
Comment vous allez rivaliser dans le stade justement ?
Bah, on va essayer d'agiter les drapeaux, d'encourager notre équipe au maximum. Et voilà, on espère que nos soldats vont essayer de remporter ce bras de fer qui s'annonce très compliqué.
Tu y crois en tout cas ?
Bien sûr qu'on y croit, on a fait le déplacement ici à Dublin, donc on est derrière notre équipe et on a aussi une grosse pensée pour les gens qui sont restés en France et notamment à La Rochelle, donc on va essayer de ramener cette coupe pour tout le monde.
Les Rochelais en tout cas, tu l'entends, ils y croient, ça monte tout doucement, il y a un très bel esprit entre les supporters, on va avoir une très très belle ambiance dans la Liga Stadium.
Et on espère qu'ils sauront se faire entendre, les supporters des Jaunards, La Rochelle face au Leinster, le défi Leinster pour La Rochelle à partir de 17h45. Merci Pierre TV dans un instant. On file à La Rochelle d'ailleurs, juste après un petit détour par le match de l'Atlantique. Encore un pénalty pour Bordeaux en Nouvelle-Adon.
Et c'est Josh Maja qui va le frapper, c'est lui qui l'a provoqué. Alors sa coach, un joueur qui vient de rater, qui vient de provoquer un nouveau pénalty, qui retire une deuxième fois. Je pense que c'est une nouveauté. On est dans le temps additionnel. 2-0 pour Bordeaux. Bon. Maja face à Sauvage, arrête à côté.
C'est
à côté pour Josh Maja qui en 3 minutes manque un deuxième pénalty. Et c'est la mi-temps à Bordeaux, 2-0. Ça va quand même bien pour les Bordelais, mais c'est tiré à côté de la part de Josh Maja qui a une discussion avec Johan Barbet juste avant le capitaine bordelais. Deux pénalties ratés en 3 minutes.
Là, maintenant, le scénario, c'est en deuxième mi-temps le 2-1 et que ça se termine 2-2, bah, c'est sûr qu'on se rappellera de ces deux pénalties.
Ah bah là, c'était... Et petite rectification, s'il y a égalité de différence de but, c'est la différence de but particulière. Et là, ce sont les Messins qui l'ont sur les Bordelais avec le succès 3-0 il y a quelques temps.
D'accord.
D'accord. Donc ça veut dire
différence de but générale, puis ensuite différence de but particulière. Si
ah, mais un premier, c'est général.
Eh oui, c'est général.
C'est général. C'est général.
C'est pas, la meilleure attaque ensuite. Ok, merci Arnaud. C'est la mi-temps 2-0 pour Bordeaux face au Stade Lavallois. Et puis filons à La Rochelle. Roland, c'est important parce que là aussi l'ambiance va monter sur le port de La Rochelle, évidemment. Romain Asselin est sur place. Ah, on vous l'a dit, 2h10 de cette finale de Champions Cup. Salut Romain.
Salut Benoît, salut coach.
Salut Romain. Bon alors, dis-nous, est-ce que ça commence à monter l'ambiance? Alors, info importante, a priori marée haute cet après-midi à La Rochelle. Hein.
Oui, marée haute là, en ce moment. Le problème, c'est que à l'heure du coup d'envoi, ça commencera déjà à bien baisser. Bon. Et à l'heure où le match sera fini, ce sera presque bas. À partir de 21h30, les plongeons. Ouais, 21h30, plongeons interdits dans le port de La Rochelle. Il y a énormément de monde là pour l'instant. Difficile à quantifier, mais je dirais au moins 10 à 15 000 personnes. Ça va évidemment converger petit à petit vers ce vieux port où. Nouveauté cette année, deux écrans géants sont installés par les services de la ville et de la préfecture. Deux écrans géants d'environ 60 mètres carrés disposés de part et d'autre du Vieux-Port pour vraiment irriguer tout l'épicentre de La Rochelle, sachant que tu auras aussi les matchs qui seront diffusés dans les bars de La Rochelle, mais pas seulement, de toute l'agglomération, je dirais même de tout le département, parfois même de la région. Tu as une ferveur qui est impressionnante ici. Là, on est sur le Vieux-Port de La Rochelle, il y a des drapeaux partout aux fenêtres. L'ambiance s'annonce dingue, les gars.
Et en ce qui concerne le match, il va falloir faire gaffe que La Rochelle ne plonge pas en deuxième mi-temps.
Et là, bravo Roland.
Oh, elle est facile celle-là, Roland. Mais attends, détrompe-toi.
Détrompe-toi.
Parce que sur les deux premières confrontations entre ces deux équipes, ça s'est joué quand? Ça s'est joué après l'heure de jeu. La Rochelle a résisté pendant une heure et ils les ont tués, ils les ont tabassés physiquement après l'heure de jeu. C'est là qu'ils ont gagné.
Et si à la fin de ta question, ça c'est quand? Tu mettrais ça c'est où?
Oui, ouais, parce que l'importance du lieu du match, effectivement, parce que là, c'est à Dublin, c'est vraiment sur la pelouse des joueurs du Leinster.
Tu parleras ce soir des coups de sifflet quand le match est à Dublin.
Ouais, alors Roland c'est son obsession de ce début de match. Évidemment, on en parlera. Merci Romain, merci pour l'ambiance. On reviendra dans une demi-heure, savoir si ça y est, les supporters commencent à se masser sur le port de La Rochelle pour suivre ce match à travers les écrans géants. Énorme ambiance attendue pour cette finale de Champions Cup, coup d'envoi 17h45 contre La Rochelle et le Leinster. C'est la mi-temps en Ligue 2, on vous l'a dit, Bordeaux mène 2-0 contre Laval avec deux pénaltys manqués par Josh Maja. Et on revient dans un instant à la suite du Giro, le Tour d'Italie. On aura également un invité, Adrien Thomasson, le meneur de jeu lensois en veille de Lorient-Lens. C'est la course à la Ligue des Champions en Ligue 1, évidemment, entre Lens et Marseille. À tout de suite sur RMC.
RMC Intégral Sport.
Benoît Boutron.
L'Intégral Sport jusqu'à 17h sur RMC avec coach Courbis. C'est la mi-temps en Ligue 2. Bordeaux mène 2-0 contre Laval. Deux pénaltys manqués en plus pour les Bordelais. Deux pénaltys manqués par Josh Maja. On suivra la seconde période avec Arnaud Valadon. Et puis l'actu de l'après-midi, c'est la finale de Champions Cup dans un peu plus de 2 heures sur RMC. Match à suivre en intégralité. Finale de Champions Cup entre le Leinster et La Rochelle avec Christophe Cessieux, Denis Charvet et Wilfried Templier. On suit également le cyclisme, le Giro et cette étape, nouvelle étape, la 14e du Tour d'Italie avec les 60 derniers kilomètres à parcourir aujourd'hui, Pierre Amiche.
Et ça bouge, première attaque dans le groupe de 29 qui n'est plus qu'un groupe de 28, Alberto Bettiol, le vainqueur du Tour des Flandres 2019, vient de s'échapper. L'Italien qui compte désormais une quinzaine de secondes d'avance, mais ça roule fort derrière avec notamment les coéquipiers de Fernando Gaviria qui voient dans cette étape une occasion magnifique. 60 km 900 à parcourir, 28 échappés et un peloton qui pointe désormais loin à 13 minutes. Attention au chrono parce que le mieux placé dans cette échappée est français Bruno Armirail et il compte 18 minutes 37 de retard. Il serait en passe de regagner quelques places et surtout pourquoi pas intégrer le top 10 de ce classement général. Il reste 60 km sous la pluie italienne avant de rejoindre la ligne d'arrivée à Cassano Magnano.
Tiens, puis en foot, en première ligue, un résultat à vous donner. Brentford est allé gagner à Tottenham 3-1. Les Spurs avaient pourtant ouvert le score par Harry Kane. Tottenham qui est seulement 7e de Première Ligue. 15h41 sur RMC, parole aux infiltrés.
Les infiltrés d'RMC.
Vous le savez, tous les samedis, un joueur de Ligue 1 vient partager avec vous son quotidien. Nos 4 infiltrés cette saison, Dante, le capitaine niçois, Samuel Moutoussamy, capitaine nantais désormais, Gauthier Gallon, gardien de but royen, et Adrien Thomasson, meneur de jeu du RC Lens, qui est en direct avec nous. Salut Adrien.
Salut les gars, bonjour à tous.
Adrien, lancé deuxième à 6 points du PSG avec 2 points d'avance sur l'OM à 3 journées de la fin. Première question, est-ce que tu as regardé la Ligue des Champions cette semaine? Est-ce que ça t'a fait rêver ces demi-finales, Adrien?
Oui, oui, bien sûr, j'ai pas raté aucun des deux matchs. Et je dirais surtout la deuxième demi-finale, Manchester City contre le Real, ça m'a vraiment fait rêver. C'est rare que je me lève de mon canapé pendant un match. Et là, ça a été le cas parce que c'était tellement impressionnant à voir. C'était vraiment un vrai régal à regarder ce match-là.
Évidemment, je te pose la question parce que désormais, Lens est assuré de terminer sur le podium de la Ligue 1. L'objectif maintenant, c'est de conserver la deuxième place. Avec cette mauvaise nouvelle qui est tombée donc jeudi soir, la finale de la Ligue Europa opposera la Roma au FC Séville, ce qui veut dire que pour la Ligue 1, c'est une mauvaise nouvelle parce que le troisième de Ligue 1 devra certainement passer par deux tours préliminaires pour atteindre la phase de poule de Ligue des Champions. Est-ce que justement, vous, en tant que joueur lensois, ça renforce votre motivation dans l'optique de cette deuxième place, justement, pour éviter ces barrages au mois de juillet?
Oui, voilà, exactement. Je pense que j'ai suivi les demi-finales de l'Europa League avec attention, bien sûr. Mais non, on va dire que ça renforce notre motivation à garder cette deuxième place qui sera directement qualificative pour la Champions League. Après, voilà, ça aurait été bien pour le football français que la troisième le soit aussi. Mais voilà, il reste les barrages. On sait que c'est sur deux tours et que tout est possible. Après, bien évidemment que ça rend la tâche un peu plus difficile pour l'équipe qui finira troisième, mais ça fait partie du jeu.
Oui, d'autant qu'on reste sur deux échecs, Monaco l'an dernier notamment, donc c'est jamais facile de passer ces tours préliminaires pour atteindre la phase de poule. Lens va se déplacer à Lorient demain, donc ensuite il y aura la réception d'Ajaccio pour vous et le déplacement à Auxerre. On voulait te parler, Adrien Thomasson, de la dynamique incroyable sur cette fin de saison, parce que ce qui est dingue, c'est que vous êtes à 8 victoires et une défaite. La défaite, c'était à Paris d'ailleurs sur les 9 dernières journées. C'est ce qui a fait défaut justement les fins de saison à Lens, les saisons précédentes. Lens a fini deux fois 7e, cette année c'est tout l'inverse. Comment tu expliques ça, cette dynamique qui s'installe? C'est plusieurs facteurs qui sont liés, c'est l'état d'esprit du groupe, c'est le niveau de l'équipe tout simplement. Comment tu vois ça toi de l'intérieur?
Oui, voilà, je pense que c'est un ensemble de choses qui font que la dynamique est très bonne depuis plusieurs matchs. Après, je mettrai vraiment en avant notre état d'esprit, notre mentalité, parce qu'on aborde les matchs vraiment pour les gagner, mais en toute humilité, on respecte vraiment tous les adversaires qu'on affronte, que ça soit Paris ou Reims le week-end dernier. Et puis après aussi, à l'image du dernier match où on est mené et on se retrouve à 10 contre 11, je pense qu'on a vraiment fait preuve de résilience. Et c'est vraiment une de nos qualités cette saison parce que voilà, quoi qu'il arrive, en fonction du scénario du match, on sait s'adapter et on sait rester calme.
C'est vrai que c'est le symbole, ce match contre Reims. Tu l'as dit, vous étiez réduit à 10, vous avez gagné quand même. Vous étiez mené 1-0 d'ailleurs après l'exclusion de Danso. On n'a pas senti de panique chez vous, vous êtes resté concentré sur ce que vous aviez à faire. C'est ça qu'on trouve dingue finalement cette année avec le RC Lens, c'est que c'est un club qui n'était pas programmé pour être à cette position-là et finalement vous assumez votre statut aujourd'hui, c'est ça qui est fou.
Exactement, moi je pense que ce qui fait la force du club même depuis quelques saisons, c'est que voilà, les joueurs, le staff, tout le monde, on va dire, tout le monde est sûr de la force collective et c'est vraiment ça qu'il faut mettre en avant parce qu'on sait très bien qu'on a peut-être un effectif moins qualitatif ou quantitatif que certaines autres équipes, mais on arrive à rivaliser sur d'autres points et je pense que si on est là actuellement, c'est qu'on l'a mérité.
Tu sens de l'excitation à l'entraînement justement avec cette fin de saison qui approche, il y a plus que 3 matchs, vous êtes vraiment pas loin d'aller chercher cette deuxième place au minimum et la Ligue des Champions. Tu sens qu'il se passe un truc, c'est différent de l'ambiance qu'il y avait ces derniers mois?
Oui, bien sûr, on sent beaucoup d'excitation à l'entraînement. Après, je dirais que on sent vraiment quelque chose qui se dégage, que ça soit à l'extérieur pendant les matchs. Mais il faut réussir quand même à faire abstraction, rester focus parce qu'il reste 3 matchs et qu'on a pour l'instant on n'a pas sécurisé la deuxième place. Et on sait que Marseille sera compétitif jusqu'au bout. Moi, je les vois même ne pas perdre de points jusqu'à la fin de saison. Donc, à nous d'être voilà comme on l'est depuis un certain moment, ultra concentré. Et après, on fera un point en fin de saison.
Adrien Thomasson, meneur de jeu lensois en direct avec nous sur RMC dans le cadre des infiltrés. Quel est le rôle du coach justement dans cette période? Parce que vous n'êtes vraiment pas loin d'aller chercher un objectif que vous avez fixé il y a quelques semaines, mais qui est fantastique pour un club comme Lens, la deuxième place. Lui, son rôle, c'est quoi? C'est de vous calmer, justement. Et quel est le rôle également des cadres? Je pense, je sais pas, à Fofana, à Brice Samba. Comment ils se partagent les rôles, tous les trois, peut-être, pour justement que vous restiez calme et concentré, finalement?
Non, mais ce qui est bien, c'est que, comme vous l'avez dit, et moi, je suis agréablement surpris, c'est le comportement du coach où on le sent vraiment serein à l'approche des événements qui sont de plus en plus importants. Il arrive à diffuser pas mal de calme, que ça soit avant les matchs et surtout pendant les matchs. La semaine dernière contre Reims, on l'a pas senti paniquer du tout, alors que la situation était compliquée. Et ensuite sur le terrain, je pense que voilà, il y a un certain nombre de cadres. Vous l'avez cité, il y a Seco, il y a Brice, mais il y a aussi il y a Jo, il y a Flo, Sotoka aussi.
Ouais.
On sent qu'on a une équipe expérimentée et c'est super important parce que quoi qu'il arrive, on a besoin de tout le monde.
D'un point de vue personnel, ta saison est folle parce que tu avais démarré les 6 premiers mois de l'année avec le Racing Club de Strasbourg. C'était un club qui était dans une situation très compliquée, même si ça va mieux aujourd'hui. Tu as débarqué à Lens en janvier, les objectifs étaient déjà élevés. Est-ce que tu traverses en ce moment la meilleure période de ta carrière, Adrien?
Oui, bien évidemment, et de loin. Je pense que collectivement, j'ai jamais été dans une équipe aussi forte depuis que j'ai commencé en professionnel. Donc, c'est vraiment que du plaisir. En plus, j'ai la chance d'avoir pas mal de temps de jeu, d'avoir la confiance du coach. Donc, honnêtement, chaque entraînement et encore plus chaque match, c'est toujours un vrai kiff. Alors après, on sait très bien que ça demande pas mal de sacrifices, mais voilà, j'ai toujours travaillé pour en arriver là, et on va dire que ça récompense mes efforts, même si c'est loin d'être terminé et on est toujours de plus en plus ambitieux.
Tu me parlais de Marseille. C'est vrai que Marseille aura joué la veille, hein, par rapport à vous. Vous allez jouer donc demain. Marseille joue ce soir à Lille. Est-ce que c'est un avantage, un inconvénient? Ça n'a aucune incidence? Comment tu vois ça, toi? Vous jouez demain à 17h à Lorient. Eux, vous connaîtrez donc leur résultat. À l'heure où on se parle, vous avez 2 points d'avance et 2 buts d'avance au goal average. Comment tu vois ça, toi, le fait que Marseille joue avant vous?
Bah, je vois ça comme une excitation supplémentaire. Sans rien vous cacher, moi je vais suivre le match avec attention.
Ah oui, tu seras à bloc.
Je sais qu'il y a certains joueurs de l'équipe qui vont préférer ne pas le regarder.
Ah, c'est marrant ça.
Mais c'est sûr que voilà, ça va pas changer fondamentalement notre façon de jouer et d'aborder le match de dimanche. Mais voilà, après on sait très bien que quand l'adversaire joue en premier dans le week-end, ça peut mettre un petit peu plus de pression. On sait que on a été dans le rôle inverse le week-end dernier où on a joué le vendredi soir, ouais. Et je pense qu'on a mis un petit peu la pression sur les Marseillais.
Ah, mais quand tu gagnes, tu passes un bon week-end, c'est sûr.
Exactement. Ouais. On suit les résultats dans le canapé, bien installé, voilà. Dans le canapé. Donc. Mais bon, après voilà, ça fait partie du jeu. On sait très bien que, à part sur les 2 dernières journées où toutes les équipes jouent à la même heure et le même jour, mais le reste du temps, il faut s'adapter. Il faut que mentalement on reste bien, encore une fois, concentré sur nous-mêmes.
Adrien, le titre, on n'y pense plus du tout à Lens. Il y a 6 points d'écart, plus le goal average en faveur du PSG. Ils peuvent même être sacrés dès ce soir si jamais vous faites un faux pas et qu'ils font mieux que vous. C'est fini le titre pour le RC Lens?
Oui, pour moi c'est fini depuis un moment. En fait, pour moi c'est vraiment terminé depuis qu'on a perdu chez eux. Au Parc des Princes. Ouais. Après, ils font une saison en termes de points qui est incroyable parce que nous, on a l'impression de faire quasiment un sans faute, mais on est toujours à 6 points, à 6.2. Donc ils vont mériter ce titre de champion, quoi qu'on en dise. Et si nous on a la chance de finir deuxième, ce sera déjà une saison exceptionnelle.
Adrien, merci beaucoup. C'est ton dernier passage de la saison dans les infiltrés. Nous, on a été ravis d'avoir eu ce plaisir de pouvoir suivre cette saison de Ligue 1 à travers ton parcours. En plus, on est doublement heureux parce que tu es un fidèle auditeur d'RMC. Hein. C'est une radio qui t'accompagne depuis de nombreuses années, que tu écoutes régulièrement. Hein. Donc, ça, c'était une histoire qui était faite pour marcher, ça.
Exactement. En tout cas, ce fut un plaisir et je vais continuer à vous écouter comme je le fais depuis de nombreuses années. Quand j'étais dans la voiture ou même quand j'étais chez moi avec mes écouteurs, avec mon poste de radio, c'était ma radio préférée. Donc encore merci à vous et bonne continuation.
Eh ben merci à toi. Il paraît que ça t'a fait peur de voir Jean Baumel en vrai, mais ça y est, c'est arrivé. Notre correspondant dans le Nord.
Tu connais bien un visage avec voix et c'est vrai que je m'attendais pas forcément, mais c'est souvent le cas quand on entend beaucoup souvent la personne parler mais qu'on n'a pas un visage, et là j'étais on va dire que j'étais agréablement surpris.
C'est gentil pour lui. C'est la magie de la radio. Merci beaucoup Adrien Thomasson. Bon match demain évidemment à Lorient et on vous souhaite une belle fin de saison avec pour vous l'objectif rempli, cette deuxième place synonyme de phase de poule de Ligue des Champions. Salut Adrien, à bientôt.
Salut, à bientôt, merci à vous.
15h52 sur RMC, ça bouge déjà à Bordeaux et les Bordelais ne lâchent rien contre Laval, Arnaud Valadon.
Et de 3 pour les Girondins, c'est reparti depuis 4 minutes sur un coup franc excentré à droite, botté par David Ajvili. Encore bien lui. Au deuxième poteau, c'est le soldat Gregersen de la tête. Gregersen de la tête qui vient marquer. Ah oui, il est précieux. Il est vraiment précieux pour les Bordelais. Gregersen qui donc est à la réception de ce coup franc magnifiquement frappé au deuxième poteau, près de 35 mètres hein, quand même, pour aller mettre ce ballon-là. Gregersen qui vient croiser sa tête et battre Alexis Sauvage. Bref, Bordeaux qui, on le rappelle, a manqué deux pénaltys, ouais, deux ratés de Maja à la 45e et à la 45e plus 3. Eh bien, ça y est, il n'y aura pas ce fameux 2-1 coach. Il y a 3-0 pour les Girondins qui marquent au meilleur des moments juste après le retour des vestiaires.
Ben, l'objectif des Girondins maintenant, c'est de soigner le goal average parce que c'est peut-être avec ce goal average que ça se jouera entre Metz et Bordeaux.
Alors justement, point classement à l'heure où on se parle, à 15h53, Le Havre toujours leader de la Ligue 2 avec 71 points, Bordeaux deuxième avec 69 points, donc provisoirement 4 points d'avance sur Metz qui jouera à 19h sur la pelouse de Guingamp. 4 points d'avance pour les Bordelais. Sur l'impression que tu as, Arnaud, sur cette première période et le début de la seconde, c'est vraiment Bordeaux qui fait un gros match ou c'est Laval qui est vraiment trop friable pour une équipe si talentueuse à Bordeaux?
Alors écoute, pour en avoir discuté avec les confrères bordelais, ils se sont dit, mais ils ont de la chance les Bordelais, ils sont dans la même lignée que Quevilly, Rouen, où ils ont fait 0-0 à l'extérieur les Bordelais. Donc c'est vraiment pas des Girondins très convaincants. Il y a ce but très tôt de Barbet sur coup franc dès la troisième, mais après un petit peu moyen dans le contenu, et des Lavallois qui ont failli égaliser un partout avant le 2-0 et ce but de David Ajvili. Donc voilà, c'est un petit peu mitigé quand même l'impression laissée par les hommes de David Guillon.
Bon, même s'ils mènent 3-0 et tout est tranquille pour eux, 3-0 contre Laval après 51 minutes. Autre direct, le Giro, la 14e étape du Tour d'Italie, Pierre Amiche.
48 km 600 à parcourir avec 4 hommes en tête, l'Italien Davide Ballerini, Stefano Oldani, son compatriote Lorenz Rex avec son physique de nageur, on comprend qu'il survive assez aisément sous la pluie italienne. Et puis Tom Schuyns, le laiton, l'accrocheur laiton. Les quatre hommes ont pris une vingtaine de secondes de champ d'avance sur un groupe de 25 coureurs qui peinent à s'organiser. Puis le peloton pointe à 13 minutes 02. Les quatre Français sont toujours dans le deuxième groupe, celui composé des 25 coureurs. Je vous redonne leur identité: Thibaut Garnalec et Warren Barguil de l'équipe Arkea. Il y a Bruno Armirail, le mieux placé de cette échappée. Il pointe à 18 minutes 37 du leader du classement général. Et puis le quatrième français, c'est Nicolas Prodhomme, le coureur d'AG2R Citroën. Tout ce beau monde pointe à une vingtaine de secondes d'un quatuor lancé vers l'arrivée. Il reste désormais 47,9 km à parcourir pour ce quatuor. Et le peloton qui pointe loin, loin désormais à quasiment 14 minutes.
En rugby, la demi-finale de Pro D2, la première demi-finale. Oyonnax mène d'un petit point face à Vannes. C'est la mi-temps. 15 à 14 pour les joueurs d'Oyonnax. Et puis un résultat de tennis à vous donner: la qualification d'Holger Rune pour la finale du tournoi de Rome. Il vient de battre Casper Ruud en 3-7. Il affrontera le vainqueur du duel Medvedev-Tsitsipas en finale demain. On rappelle que les qualifications du Grand Chelem de Roland-Garros, les internationaux de France, eh bien, les qualifications démarreront lundi. On suivra ça sur RMC, évidemment, avec Eric Salio. 15h56, dans un instant, on retourne à La Rochelle. C'est l'événement de l'après-midi, la finale de la Champions Cup entre le Leinster et La Rochelle. Et puis, on parlera également Ligue 1 avec Coach Courbis. On vous présentera ce Lille-Marseille, si chaud ce soir à 21h. On parlera également de Nantes qui est en danger. Nantes reçoit Montpellier à 17h. A tout de suite sur RMC.
RMC. Intégral Sport.